Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé aujourd'hui, nous allons le consacrer notamment au documentaire rural qui sortira mercredi au cinéma. Nous aurons le plaisir de recevoir Édouard Bergeon, le réalisateur, et Jérôme Bail. Nous aurons également le plaisir de consacrer notre coup de cœur cinéma cette semaine à Alter Ego qui sortira mercredi également au cinéma avec un Laurent Lafitte dédoublé. À cette occasion, Nicolas et Bruno, les deux réalisateurs, seront avec nous pour en parler. Et nos coups de cœur télé de cette semaine ne seront pas en reste avec déjà Marie Tapernoux, une des expertes de Marie au premier regard, qui sera avec nous dans quelques instants. Maud Baker également viendra nous parler de Papa Malgré Lui et également de la série Erika. Et pour Papa Malgré Lui, d'ailleurs, le producteur Stéphane Drouet et le compositeur Hervé Rakoto-Firanga seront nos invités exceptionnels. On parlera également du documentaire Pourquoi t'as pas d'enfant qui sera diffusé demain soir à 21h05 sur France 5 et Nora Malagré sera notre invité exceptionnel pour en parler. Et puis on aura le plaisir également de recevoir une bonne partie de l'équipe de Pêcheresse qui débarque cette semaine sur Ciné Plus OCS. La créatrice et réalisatrice Charlotte Sanson, le producteur Éric Laroche et les comédiennes Ninon François et Léonie Dahan-Lamort seront nos invités pour en parler. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on démarre tout de suite avec notre spécial rural.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film rural qui sortira mercredi au cinéma. Un film de Édouard Bergeon qui nous rejoint. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Et qui est rejoint par également son producteur Christophe Rossignon. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, rural, c'est un portrait, le portrait d'un homme. C'est aussi sa vie à la ferme, ses convictions, ses combats. Et évidemment aussi qui nous amène pas mal d'émotions, de rires. On découvre le portrait de Jérôme Bail qui a enflammé la France entière. Et Edouard, tu as eu la chance d'être au plus près de lui pendant plusieurs mois.
Ouais, pendant plus d'un an et demi, j'ai suivi Jérôme Bail, sa maman, une petite famille. C'est Il était une fois Jérôme Bail, c'est un film de cinéma qui raconte l'intimité d'un agriculteur, qui raconte l'agriculture d'aujourd'hui du Sud-Ouest. Je me suis arrêté pour faire une photographie de cette agriculture du Sud-Ouest avec beaucoup d'humains. C'est un film où il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pas un film technique qui raconte les rouages de l'agriculture. C'est vraiment les saisons qui passent au pied de cette chaîne des Pyrénées, là où est la ferme, avec le grand soleil, la neige, vraiment cette nature et cette agriculture qui défile devant nous. Et tout en suivant donc Jérôme Bail, ce leader charismatique de l'agriculture, une grande voix, une grande gueule, qui a pris la parole il y a 2 ans, en janvier 2024, et qui a déclenché les colères agricoles. On a tous connu, on s'en rappelle tous, avec des autoroutes bloquées, et notamment lui avait bloqué la 64 avec ses copains. Et ça a recommencé d'ailleurs fin décembre, il y a quelques mois. pour moi, c'était important d'aller le suivre parce que on se ressemble un petit peu avec Jérôme. C'est une sorte de miroir de moi-même puisqu'on a une histoire commune. On est nés tous les deux dans une ferme. On a le même âge. On a une passion pour le sport. Nos pères respectifs ont eu des destins communs et ils ont mis fin à leur jour beaucoup trop tôt. Lui, il a repris la ferme alors que c'était pas vraiment prévu. Moi, je l'ai pas reprise alors que c'était plutôt prévu, mais j'ai pris la caméra et ma caméra m'a permis de le suivre pour faire un film qu'on va voir dans les salles dans deux jours.
Effectivement, c'est aussi quelque chose de chouette que tu aies pu prendre la caméra, toi, pour raconter aussi et être un peu le porte-parole de ce monde agricole qui souffre tant aujourd'hui de tout ça. Christophe, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre Edouard? Je sais qu'il y a une fidélité entre vous deux maintenant qui s'est vraiment créée hein, depuis La Promesse Verte et d'autres projets avant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre Edouard sur Rural?
Bon, plein de choses, hein. L'amitié qu'on a construite depuis Au nom de la terre, le premier film d'Edouard qui parlait du suicide des agriculteurs, et donc quelque chose qui était quand même assez proche de ce qu'il avait vécu, hein. C'est à peu près son histoire, Au nom de la terre. Et donc le lien, on est tous les deux fils d'agriculteurs, comme Edouard l'a dit. Et puis aussi Jérôme, quand j'ai découvert qui était Jérôme exactement, est-ce que Edouard allait plus ou moins faire, parce qu'il n'y avait pas de scénario au départ. Il y a quand même eu des surprises pendant le tournage, pendant cette année et demie où il l'a suivi. Oui, il avait prévu de filmer Mère Nature, ses animaux, parce que Jérôme est éleveur bovin, de filmer un certain nombre de choses, mais voilà, la beauté du documentaire fait par une personne. Il était seul, il n'avait pas une équipe et donc il était souple. Puis il s'est fait oublier surtout, il s'est fait oublier de la famille. Donc quand il venait, souvent il posait la caméra quelque part et plus personne ne le calculait ou calculait la caméra, et donc il a chopé des images, des trucs assez incroyables.
Je faisais pas que poser la caméra, hein, je l'avais aussi à l'épaule, hein, parce qu'il fallait quand même être dynamique. La vie d'un agriculteur, ça bouge, surtout Jérôme Bail.
Surtout quand il est dans le tracteur.
Oui, bah tu la poses sur ton épaule, du coup. Donc non, mais effectivement, et du coup, cette souplesse et surtout, bah, peut-être cette liberté que le cinéma peut offrir. Si Edouard avait fait ce documentaire pour la télé, c'était pas du tout la même chose. Bah,
jamais on le fait parce que la télé n'en voulait pas.
En plus, oui, effectivement.
Mais comme quoi, ça aurait été une mission de service public pourtant, hein, ce film.
Pourquoi vous dites ça?
Je sais pas, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un film où il y a deux mots qui me viennent, Edouard. C'est vraiment humanisme, sincérité et simplicité. Quand je vois ce film, il est filmé en toute simplicité. On découvre un homme d'une humanité folle et d'une simplicité déconcertante.
Je vous remercie que vous disiez ça, puisque c'est Mickey Mouse et Disney+, les Américains, qui nous ont suivis pour fabriquer ce film, avec la région Occitanie et d'autres partenaires.
Le distributeur en salle,
jour de fête. Mais merci en tout cas, parce que ouais, c'est quelqu'un de sincère, d'humain. Jérôme, puis sa maman, parce que sa maman est un second rôle extraordinaire.
Lulu. Ah, Lulu.
C'est un peu notre maman, notre grand-mère à tous, qui est une formidable cuisinière, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit, l'air de rien, beaucoup de vérité. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont accueilli à leur table, dans leur cuisine, là où tout se passe. J'ai bien mangé pendant un an et demi et j'ai pu capter beaucoup de choses hors caméra, parce que c'est ça le documentaire, c'est passer beaucoup de temps hors caméra pour apprendre à se connaître, parce qu'il faut donner beaucoup pour recevoir. Hein. Et ensuite, avec caméra, je ne questionnais pas, j'observais, et... sauf Lulu qui me parlait, elle était un peu... Elle était libre, hein. De toute façon, ils sont libres, elle le dit. Jérôme est libre, elle est libre, et c'est... un paysan, c'est libre, normalement. Et en fait, c'est ce que ce film raconte, la liberté de vivre au milieu des animaux, de la nature, et de travailler avec le vivant, avec la météo, ce qui n'est pas simple, mais qui peut donner aussi beaucoup de satisfaction.
Moi, je pense que c'est ce qu'Edouard a réussi. Alors, on va dire que je suis pas objectif puisque je suis son producteur, mais j'aime sincèrement son film. Et on est nombreux, hein, de plus en plus nombreux, parce que on a fait jusqu'à la sortie, qui est dans deux jours, énormément d'avant-premières, et on a un retour très positif des médias, des avant-premières, des spectateurs, etc. Et je trouve qu'Edouard a fait un film libre, libre comme doit être l'agriculture, comme sont Jérôme, sa maman, et c'était important de pouvoir l'être.
Libre comme l'est le cinéma. Oui, parce qu'on a, voilà, on s'est octroyé beaucoup de liberté au montage, et on a créé une bande son avec le compositeur Thomas Dapello de cinéma, avec des intentions de cinéma, et on passe par toutes les émotions pendant le film.
Moi, il y a autre chose qui m'a marqué aussi, parce que s'il y a un mot qui doit ressortir aussi du film, c'est transmission. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que Jérôme aime tellement son métier qu'il en contamine tous ceux qui peuvent lui être proches, comme par exemple les deux enfants de sa locataire et qui sont vraiment très très près de lui, qui en deviennent presque à l'appeler leur papa de cœur. Je trouve ça assez extraordinaire, l'amour du métier qu'il peut transmettre justement à ses enfants, et comment il a pu justement les emmener vers là.
Bah pour recontextualiser, en fait, moi, quand je débute le tournage de ce film, je sais pas ce qui va se passer, forcément. Mais au bout de 6 mois de tournage, il y a une petite famille qui débarque dans la région et Jérôme a un logement à louer. Et ils vont s'y installer. Et les enfants qui ne sont pas du tout du monde agricole, et pour le coup, le garçon qui a une douzaine d'années, Evan, qui joue 5 heures par jour à sa PlayStation, bah, Jérôme leur propose de venir découvrir la ferme, ce qu'ils vont faire. Et alors là, Evan va poser la PlayStation et devant la caméra, on va voir comment il va apprendre l'agriculture, comment il va changer, comment il va s'épanouir, sa petite sœur aussi, et comment Jérôme, lui, va ouvrir grand ses bras et va devenir leur, quelque part, leur papa adoptif. Voilà, hein, et ses enfants viennent aussi apporter beaucoup d'amour et d'humanité à Jérôme. Et ça, c'est très très beau pendant le film, et c'est un deuxième niveau de récit au-delà de l'agriculture qui fait beaucoup de bien et qui raconte justement le « Il était une fois » de Jérôme Bail.
Alors, justement, Jérôme va nous rejoindre aussi par téléphone d'ici quelques instants. Mais juste pour terminer déjà avec vous deux, quel plus beau souvenir vous en garderez de ce tournage, Edouard, qui t'a pris quand même pas mal de temps?
J'ai pas un souvenir en particulier, mais vraiment, c'est le collectif qu'il y a autour de Jérôme, parce qu'il est pas tout seul dans ce film. Ils sont des centaines, parce qu'ils ont créé un super collectif en Haute-Garonne. Et puis, j'en retiens que avec Christophe, on est parti... Voilà, la fleur au fusil, la caméra à l'épaule, et aujourd'hui, on se retrouve dans des salles de cinéma qui sont en plus, voilà, très très pleines, j'allais dire, avec beaucoup de spectateurs. Les spectateurs que je retrouve qui étaient là pour Au nom de la Terre. Et quand les gens viennent me dire, on vient se voir sur grand écran, bah, je me dis que le cinéma a encore de beaux jours devant lui.
Effectivement. Et puis Edouard a un impact sur ses spectateurs assez fort, que ça soit sur La Promesse Verte, que ça soit sur Au nom de la Terre, maintenant sur Rural, j'en suis sûr aussi. Tu as vraiment un impact sur ton cinéma, et ça c'est beau à voir sur la jeune génération notamment. Et j'ai quelques anecdotes que je te livrerai justement là-dessus, Christophe.
La confiance que Jérôme a fait à Edouard, la confiance qu'on s'est fait mutuellement, la confiance que quelques partenaires ont pu nous faire. Voilà, c'est un mot important, c'est un moteur important, la confiance. Et donc il fallait, on a parlé de liberté, il fallait être libre pour faire ce film, mais il fallait aussi une grande confiance entre tout le monde.
Rural sort mercredi dans les salles, on va écouter la bande-annonce, et juste après, Jérôme Bail nous rejoint par téléphone. À tout de suite.
Ça va ?
Alors, on bloque tout ?
Oui.
C'est prêt ?
Je suis prêt.
Je suis ravi de vous retrouver après mon premier film Au nom de la Terre avec un documentaire cette fois.
Un agriculteur est devenu le visage de la contestation.
T'as répondu parce que je crois que ça sonne souvent.
Jérôme Bail.
C'est un agriculteur que les journalistes ont beaucoup aimé.
C'est quoi la question ?
Les revendications.
Je l'ai fait 860 fois. T'as pas autre chose ? Change.
Et sa maman Lulu, qui a 75 ans, c'est un personnage.
Allez ! Pourquoi tu me fais parler ?
Oh, j'écoute, moi.
Il partait où, Jérôme, alors ?
Allez, on continue notre coup de cœur ciné spécial rural qui continue. On vous l'avait promis il y a quelques instants. Jérôme Bail est avec nous. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, mercredi, c'est vrai qu'on va découvrir ta vie à la ferme, tes combats, le tout filmé sous la caméra bienveillante d'Edouard Bergeon qui était avec nous il y a quelques instants avec Christophe Rossignon. Alors, j'aimerais bien savoir, Jérôme, comment il a réussi à faire Edouard ? Parce que vraiment, on a l'impression que tu t'es laissé filmer vraiment parce que c'était lui. T'aurais pas laissé n'importe qui faire ?
Ben non, puisque des projets de films comme ça, de documentaires, j'en avais refusé une bonne quinzaine parce que je voulais pas que les gens profitent de notre tristesse et de notre malheur pour se faire de l'argent. Comme j'ai au début, j'ai refusé même le projet avec Edouard parce que moi je voulais pas du tout ça. Et après Edouard un jour a dit mais je viens te rencontrer et on a discuté et ben je lui ai dit banco, on a la même histoire, nos pères se sont donné la mort, on a cette même passion pour la terre. Donc je lui ai dit ok, moi j'accepte le projet à une seule condition, c'est que moi je sois totalement bénévole, mais par contre que tous les deux, autant toi que moi, eh bien, on mouille le maillot, comme on dit chez nous dans le sud-ouest, et on mouille le maillot pour défendre cette cause qui est l'agriculture et la ruralité. Et j'ai dit là j'ai accepté là-dessus, et après avec Edouard, eh bien, il crée un lien fort aujourd'hui qui va plus qu'une histoire d'un documentaire. Je pense que on est devenus comme des frères, et il a été intégré à la famille. Ma mère le considérait comme son fils, donc il a pu partager tous ses moments avec nous, et il dormait chez moi. Voilà, donc ça a vraiment simplifié cette relation qui a fait que il est plus allé filmer jamais des moments où c'est que c'était pas prévu, voilà.
C'était drôle de voir d'ailleurs comment Lulu, des fois lui parlait sans imaginer que lui, il était en train de filmer, etc. En fait, c'était la seule qui vraiment s'affranchissait de toutes les règles qu'il pouvait y avoir là-dessus et s'adressait directement au réalisateur comme s'il était pas en train de filmer de façon tellement naturelle.
Ben ouais, mais il a passé énormément de temps avec nous. Il parle de 250 à 300 heures de rush, de tournage, mais il a passé des jours et des jours à rester avec nous et sans filmer, sans la caméra. Donc il a passé vraiment du temps avec nous et au final, ben c'était devenu notre confident de notre quotidien, qu'il ait une caméra ou pas. Donc ça a créé des images fortes et insolites, on va dire.
J'imagine, Jérôme, ton émotion quand t'as vu le film monter la première fois, qui te l'a montré.
Ben, l'émotion était encore plus forte, puisque malheureusement, ma maman a fait un AVC le 17 septembre et qu'elle est dans un centre de rééducation sur un fauteuil roulant. Donc, c'est encore plus fort de la revoir comme ça,
ouais.
De la revoir avec tous ses moyens, quand on connaît la galère qu'elle vit actuellement. Donc, il y avait encore plus d'émotion.
Et là, Edouard était encore là à tes côtés.
Ben ouais, Edouard, quand il a su, le soir, quand je l'ai retrouvé à 21h, quand je l'ai retrouvé comme ça, j'ai appelé les pompiers, j'ai envoyé un message à Edouard pour lui dire, il m'a dit, je prends la voiture, j'arrive, et il a fait 8 heures de route pour être à la sortie, dans la salle d'opération de ma maman, pour être à mes côtés, voilà.
C'est ce que je disais à Edouard il y a quelques instants, si je dois résumer un peu dans le film, c'est vraiment sincérité. Il y a quelque chose qui émane, en tout cas, de toi. C'est vraiment toute cette sincérité que tu as mis. La pudeur aussi, dans le montage, pour le coup, et dans la réécriture au montage d'Edouard. C'est pas un film militant, c'est juste le portrait d'un homme.
C'est un quotidien, voilà. On n'a joué aucune scène. C'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est Jérôme Bail. Avec son franc-parler, avec ses expressions, avec ses galères et sa vie, tout simplement, voilà. Et je pense que Edouard, aussi qu'il a été fort, c'est qu'il en a créé une histoire et il a été chercher les gens dans l'émotion et aujourd'hui, on le voit, quand les lumières à la fin des avant-premières s'allument, il y a beaucoup de gens qui ont les yeux rouges et ça veut tout dire.
Il y a un autre mot qu'on disait il y a quelques instants avec Edouard aussi, c'est transmission, parce que c'est vrai que cette famille qui est arrivée, qui a loué une partie de la maison que tu as retapée avec Evan et Maëlys, les enfants, ils se sont tout de suite pris d'affection pour toi et j'ai même l'impression que tu as créé et à ta plus grande surprise peut-être certainement une véritable vocation chez Evan.
Ouais et de l'assurance, on le voit, Maëlys dans le film prend énormément d'assurance au fil du temps et Evan pareil, et c'est le but. Comme le dit Saint-Exupéry, la terre, on l'hérite de nos parents et on emprunte à nos enfants. Donc, notre métier, c'est pareil, puisqu'il est vraiment collé à la terre. Et donc, mais la transmission, c'est une chose super importante. Et je pense qu'il faut redonner à ces gens, à ces jeunes et ces enfants, l'envie de redécouvrir cette nature, de redécouvrir ce monde rural avec ses joies, avec ses galères, mais surtout avec ses bons côtés. Et leur donner envie de vouloir faire ce métier qui est agriculture et qui est un métier dur, mais qui est un métier qui est noble. Et qu'il y a toute une histoire derrière.
Ouais, il y a une vraie passion, en tout cas, qu'on ressent en t'écoutant. Le combat continue, en tout cas. Il y a des moments d'émotion intense, effectivement, dans ce film, et il y a aussi beaucoup de moments de rire. Et c'est vrai que moi, celui qui m'a fait vraiment sourire, c'est de voir comment les politiques te draguent. Clairement, Marine Tondelier qui te tape la bise, qui te tutoie et toi qui la remet toujours un peu en place en disant n'oublie pas qu'on n'a pas tout à fait les mêmes idées quand même, tous les deux. Je te respecte, mais on n'a pas tout à fait les mêmes idées. J'ai trouvé ça très drôle de la façon dont tu les regardes parce que ils sont tous là à essayer de te dragouiller quand même un peu, hein, parce que t'as quand même une parole forte aujourd'hui.
Et oui, Marine Tondelier, l'image elle est forte. Jérôme Bail, qui est quand même quelqu'un de la nature, qui est un chasseur, un défenseur de la chasse. De ce monde rural, de cette campagne, et Marine Tondelier qui est végétarienne, et moi qui mange que de la viande. Donc, on peut arriver à leur discuter, il faut discuter avec eux et leur faire passer les messages, et je pense que c'est ce que je fais. Alors, oui, ça marche pas toujours, mais au moins, quand je rentre chez moi le soir, j'ai la conscience tranquille, je leur ai dit en face ce que je pensais.
Et ça, c'est important. Effectivement, on va découvrir Rural mercredi au cinéma, ne le ratez pas. Vous allez pouvoir avoir d'ailleurs l'occasion, peut-être si vous l'avez pas vu, de revoir Femme de la Terre aussi à 22h40 sur France 2. Mercredi soir, c'est le dernier documentaire aussi de Edouard Bergeon. Et puis Jérôme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Ben, à moi, rien. Voilà, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce monde agricole retrouve le sourire, que nos politiques, un peu plus d'eux et un peu moins de nous, puisque nous, on est assez grands, on connaît nos problématiques sur le territoire. on sait gérer l'agriculture, c'est notre métier, on sait faire de l'agriculture, et que les Français nous fassent confiance à ces agriculteurs. Si on a tout ça déjà, on aura fait un pas de plus en avant.
Merci en tout cas Jérôme d'avoir été avec nous, le combat continue évidemment, puis on espère te retrouver bientôt, en tout cas Rural c'est mercredi au cinéma, à très bientôt.
Merci à vous.
Si le monde rural n'existe plus, s'il n'y a plus l'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et savez, c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il est couiné.
Bien, bravo. Tu veux être libre, c'est normal. Au moins, tu peux t'exprimer quand tu es libre.
Moi, ce que je veux, c'est construire. Et pour construire, il faut parler.
J'ai le sentiment, on va s'en sortir. On sera obligé d'en sortir parce qu'on ne mérite pas de crever.
J'ai passé plus d'un an avec Jérôme Bail, avec une petite famille aussi et un petit garçon qui a peur des vaches.
C'est mon petit voisin, c'est un petit qui a découvert l'agriculture depuis 6 mois.
Bah, comme ça.
Et c'est un peu, on va dire, l'enfant que j'ai pas.
Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire qu'on ne vous lâchera pas.
Vous non plus. On a prouvé qu'ensemble, on avait réussi à faire des choses.
Ah, mais tu te mets là, toi?
Eh oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un effet de montage.
Ah d'accord.
Rural, le 4 mars, au cinéma.
Et on compte sur vous.
Allez, ne bougez pas, nos coups de cœur télé débarquent juste après ça, tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Je me fais pitié. Maman parle que de moi. Au fond, je le sais. Salidan, c'est pour toi. Je crois que c'est à la mode d'être sale. C'est à la mode, mais c'est pas beau. Tu parles comme un animal. Tu le fais cacher sur les réseaux. Tu sais, je me déteste déjà. T'avais pas besoin de l'écrire, je le savais, crois-moi. J'ai bien cherché, c'est ça. Pitié, poste pas. Je me fais pitié, t'en fais pas. Pitié, poste pas. Je me fais pitié, t'en fais pas. T'as rien dans le crâne. Tout le monde l'a vu à la télé. Tu danses pas si mal. En vrai, t'es plutôt bien gaulé. Mais t'as vu son visage. C'est Barbie au moins bien. Y'a rien sous le maquillage. Mon Dieu, à son âge. De toute façon, t'es qu'une meuf bonne à nous montrer tes... Tu sais, je me déteste déjà. T'avais pas besoin de l'écrire, je le savais, crois-moi. Pitié, poste pas. Je me fais pitié, t'en fais pas. Pitié, poste pas. Je me fais pitié, t'en fais pas.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à nouveau cette semaine à Marie au premier regard, qui a fait son grand retour lundi dernier sur M6 à 21h10. Après Estelle Dossin qui était notre invitée, c'est Marie Tapernou qui nous rejoint cette semaine. Bonjour Marie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. En plus, c'est un double événement puisqu'il y a Marie au premier regard ce soir, bien sûr, à 21h10 sur M6, mais il y a aussi le livre qui sort jeudi, dont on va parler dans quelques instants, Les secrets des couples durables, le guide de l'experte pour réussir sa vie à deux. On a hâte de découvrir en tout cas ce livre chez DBS qui sortira chez tous les bons libraires. Mais d'abord, on va parler de Marie au premier regard. Alors Marie, je crois que c'est la troisième saison, deuxième ou troisième pour vous?
C'est ma deuxième ici en France.
Et alors, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien en France aussi?
Ah ben oui. je suis très très bien, à tel point que je suis revenue encore une deuxième saison et je suis ravie, vraiment.
Bon, c'est génial. Est-ce qu'il y a une différence notable pour le coup entre les histoires d'amour qui se déroulent en Belgique et celles en France? Puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a une version belge de Marié au premier regard où vous y êtes experte aussi depuis de nombreuses années.
Alors, je ne suis plus experte maintenant, je l'ai été. Vous savez, les histoires d'amour, je pense qu'elles animent autant les Belges que les Français et toutes les personnes du monde entier. Mais la différence notoire, c'est surtout le super binôme que je forme avec Estelle, qui fait que je pense que ça rajoute vraiment un réel plaisir à participer à cette expérience. Et puis, on se complète énormément. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui a fait que je suis revenue cette saison en France. Et puis, je pense que ce qui, moi, m'a vraiment donné envie de revenir, c'est la proximité qu'on a avec les participants, l'humanité qu'il y a au travers de cette expérience. On n'est pas là pour faire un show, on est là pour accompagner des personnes qui sont en recherche de trouver une personne avec qui ils sont compatibles. Et ça leur demande beaucoup de courage, ils nous font confiance. Et donc, je trouve que cette humanité, elle est extrêmement présente tout au long de la saison. Et voilà, ça m'a vraiment convaincue de recommencer cette saison-ci, qui est la 10e.
Ouais, 10e saison anniversaire, Marié avec plein de surprises, un taux de compatibilité record de 90%. Deux sœurs qui vont se marier le même jour, il va y avoir plein de surprises pour cette 10e saison. Mais déjà, moi j'ai envie de vous demander, Marié, est-ce que c'est facile? Des fois, il se passe plein de choses spontanées dans Marié au premier regard. On peut jamais prévoir, il n'y a jamais rien d'écrit. Alors, est-ce que des fois c'est difficile de garder la face à des événements qui sont émotionnellement, par exemple, très forts, même pour nous, téléspectateurs, ça nous arrive de verser notre petite larme, comme de rire à gorge déployée aussi. Est-ce que c'est difficile de garder cette distance avec les célibataires aujourd'hui et les candidats?
Alors, en fait, on leur demande à eux d'être très authentiques avec nous et de sortir de leur zone de confort. Et finalement, ils font la même chose avec nous aussi, puisqu'ils nous sortent de notre zone de confort avec des demandes particulières, avec des moments extrêmement forts. Et en fait, je pense qu'il ne s'agit pas de garder une forme de distance, il s'agit de les accompagner et de vivre toutes nos émotions pleinement pour pouvoir être encore plus proche d'eux et plus au fait de leur accompagnement. Il faut savoir qu'on les accompagne tout le long, on vit ce qu'ils vivent avec eux autant que possible, tout en gardant notre recul à nous. Et puis surtout, le fait de pouvoir travailler en binôme est une vraie plus-value, parce qu'on est touché différemment par des situations et donc on se complète beaucoup à ce niveau-là aussi. Donc en fait, on vit pleinement toutes les émotions avec nos participants. Et on s'adapte et on sort de notre zone de confort avec eux aussi. Donc en fait, on est tous dans le même bateau. C'est vraiment comme ça que je le définirais.
Alors, on a vu la semaine dernière Julie et Mathieu ainsi que Laurie et Antonin. Alors, si Laurie avait beaucoup de doutes à la fin de l'épisode sur l'aventure, Antonin était plutôt en train de se gonfler à bloc là-dessus. Et par contre, Julie, il a fallu carrément lui venir en aide. Je n'ai jamais vu un essayage de robe aussi intense quand même, avec au moins 10 robes. Combien elle en a essayé, Julie, là, la semaine dernière?
Elle en a essayé pas mal, ça c'est sûr. Maintenant, j'avoue que on a anticipé ce moment. On s'est bien dit que c'était un moment qui allait cristalliser beaucoup de stress, beaucoup de peur. Elle a des réflexes très ancrés qui se sont remanifestés. Et ça, voilà, je m'y attendais. C'est pour ça que je suis arrivée à ce moment-là pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et puis la confronter à ses ressentis et puis lui donner des outils pour pouvoir arriver à canaliser des émotions qui sont pas toujours évidentes à gérer. Et tout essayage de robe de mariée est un moment très intense pour n'importe quel marié, mais dans cette expérience, c'est encore beaucoup plus fort et ça vient vraiment rendre les choses très concrètes. Et donc, naturellement, on a anticipé ce moment qui risquait d'être très stressant pour elle et on s'en rend compte. Il y a aucune robe dans un premier temps qui lui convient, c'est pas ça qu'elle imaginait. Il y a des projections, il y a des ressentis qui partent dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était un moment particulièrement intense.
Ouais, il y a le vécu qui compte. En tout cas, on a l'impression que la discussion et l'empathie dont vous avez fait preuve, Marié, lui a fait beaucoup de bien et elle l'a apaisé. Donc ça, c'est plutôt bien. On va découvrir de nouveaux célibataires, évidemment, aussi ce soir dans l'émission. Alors, ceux diront-ils oui, hein, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on attend tous. Mais il paraît quand même, Marié, que c'est une saison record pour les couples cette année qui dure. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, évidemment. On adore ça, nous, les couples qui durent.
Alors, nous, on est évidemment ravis avec Estelle. C'est ce qu'on souhaite pour chacun de nos couples. On n'a aucune garantie. Maintenant, on, au fur et à mesure des saisons, on s'affine, on retient les apprentissages des saisons précédentes, on s'adapte à nos participants. Et au plus, ils sont authentiques avec nous, au mieux, nous, on peut les accompagner. Et donc, c'est vrai qu'on a eu des couples cette année, et vous le verrez par la suite, qui nous ont fait confiance, qui ont dépassé des limites, qui ont pleinement... donner la chance à la rencontre, et ça, ça fait toute la différence.
En tout cas, ils pourront tout le temps compter sur vous deux pour les accompagner, ça c'est chouette. Et justement, ça fait un beau fer de lancement, puisqu'on parle de couples qui durent dans l'émission. Eh bien, il y a le livre qui sort jeudi, Les secrets des couples durables, un guide important pour réussir sa vie à deux, que vous sortez, Marie, hein.
Oui, tout à fait. Je vous remercie d'en parler parce que ce n'est pas anodin. Ce livre, j'ai voulu l'écrire en partant d'ailleurs, en me déplaçant, parce que vous savez que moi, je vis en Belgique et donc j'ai eu énormément de déplacements à faire pour l'émission. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire ce livre dans le train pour réaliser de nombreux tournages pour l'émission. Et en fait, ça me tenait à cœur de pouvoir rendre accessible finalement des conseils qu'on peut avoir quand on va en consultation. Beaucoup de couples n'osent pas franchir ce pas parce que c'est un pas qui est pas facile à faire, qui demande du courage. Et donc, j'avais envie de rendre ça accessible dans un livre pour un petit peu rappeler qu'en fait, un couple, ça ne s'improvise pas. Un couple, bah, y a des petites choses à mettre en place, des petits tips qu'on peut donner en termes de communication, en termes de confiance, en termes d'intimité, etc. Et puis, un couple passe par différentes phases. Et donc, j'avais envie de rendre tout ça accessible pour les couples qui peuvent parfois avoir des doutes, remettre des choses en question, ou les couples qui vont très bien, mais qui ont envie que ça continue à durer. Et donc, c'était dans cet état d'esprit-là que j'ai rédigé ce livre qui est plein d'outils que je donne en consultation et puis de témoignages aussi de patients que j'ai dans mon cabinet.
Oui, c'est comme un guide, hein. On y retrouve effectivement plusieurs étapes, hein, dans le livre, les étapes du couple, l'amour, la confiance, la communication, la sexualité, l'infidélité, la séparation, une reconstruction après une crise ou une rupture. Il y a vraiment tous les passages et les moments que peuvent vivre un couple avec ce livre. On va donner des clés, peut-être, pour réussir toutes ces étapes.
Exactement. Je pense que les grandes théories sont intéressantes pour comprendre, mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'aspect plus pratique. Et donc, les outils très concrets que je donne dans le livre permettent justement de pouvoir faire évoluer la dynamique de couple et de pouvoir mieux comprendre parfois des malentendus, des incompréhensions. Il y a beaucoup de biais de communication qui peuvent s'insérer dans la vie d'un couple. Et donc, j'avais vraiment envie de rendre ça très concret et de manière très humble. J'y partage aussi des petites expériences personnelles puisque moi-même, j'ai vécu une séparation. Et donc, c'est pas de mon piédestal que je transmets tout ça, c'est aussi avec beaucoup d'humilité, en disant que parfois on connaît bien la théorie, mais c'est pas pour autant qu'elle est facile à appliquer.
Ouais, que la pratique, c'est autre chose, effectivement.
Exactement, tout à fait.
Bon, en attendant, Marie Tapernoux vous donne la recette des couples qui durent, un vrai manuel du bonheur à deux qui vous attend dans toutes les bonnes librairies. Ça sera à partir de jeudi. Les secrets des couples durables, le guide de l'experte de Marie au premier regard pour réussir sa vie à deux, que vous pourrez découvrir. En attendant, ce soir, c'est le deuxième épisode de Marie au premier regard qui vous attend. Pour les petits malins qui ont envie de vite savoir la suite, sachez que vous aurez les épisodes de lundi prochain qui sont disponibles sur M6 Plus Premium pour les abonnés. Et ça vous permettra d'avoir une semaine d'avance sur les autres. Mais teasez pas trop quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, je vous dis, dans cette saison 10. Merci beaucoup, Marie.
Avec un grand plaisir, et puis au plaisir, Alain.
À très très vite.
La semaine prochaine, dans Marie au premier regard, vous assisterez au coup de foudre entre Julie et Mathieu. Et leur incroyable alchimie atteindra des sommets.
T'es très belle en tout cas.
Merci, toi aussi, t'es
très
beau.
Merci, c'est gentil.
Antonin et Laurie, compatibles à 90%, marqueront-ils l'histoire de l'expérience en formant le couple le plus compatible jamais marié? Pour ces deux célibataires ultra-perfectionnistes, la pression va monter d'un cran.
Ah, oula!
Et nous ferons la connaissance de Jenna et Laurent qui vont vivre une expérience totalement inédite qui va bouleverser le concept de marié au premier regard.
J'avais envie de vous transmettre une information. Il n'est pas improbable que vous vous soyez déjà croisés.
Qui ça peut être?
J'espère que c'est pas une ex au moins.
Et notre coup de cœur télé consacré à TF1 qui ce soir va dégainer sa fiction événement Papa Malgré Lui, produit par Stéphane Drouet, qui est notre invité qu'on retrouve après quelques années. On a souvent ses comédiens, ses réalisateurs, mais c'est rare que le producteur soit avec nous. Alors on est très heureux de t'accueillir à nouveau, Stéphane, bonjour.
Bonjour, merci.
Et puis on va parler de la musique du film du coup aussi, puisque nous avons Hervé Rakoto-Firanga qui est là avec nous. Bonjour Hervé.
Merci, bonjour.
Merci d'être là tous les deux. On va y retrouver effectivement le personnage dans ce film d'Alex, un journaliste fêtard, insouciant, qui n'a jamais pris conscience qu'il avait une fille en quelque sorte, incarnée par Arnaud Ducret. Et puis sa vie va basculer le jour où son ex-femme va venir le voir et va lui dire « Écoute, il y a un problème avec ta fille, est-ce que tu peux lui parler ?» etc. Et puis il va s'apercevoir très vite qu'il y a une affaire d'harcèlement scolaire qui est derrière tout ça et va décider de s'infiltrer au cœur du lycée en tant que lui prof de sport, ça c'est ses rêves, mais non, il va être infiltré en tant que prof
d'histoire.
Et là ça va pas être la même histoire, c'est le cas de le dire. Comment est venue l'idée, Stéphane, déjà?
Bah, en fait, l'idée est venue de la scénariste Christelle Parlanti, qui a eu cette envie de raconter l'histoire de ce père qui était complètement largué, qui n'avait plus de nouvelles de sa fille, et qui tout d'un coup se retrouve confronté à un vrai problème, puisqu'il découvre que sa fille se fait harceler. Et donc, il trouve, comme personne ne fait rien, il trouve l'idée un peu folle, un peu bête comme ça, de se dire, bah, je vais m'infiltrer dans le lycée, je vais me faire passer pour un prof et je vais régler moi-même les problèmes. Voilà, il veut prendre les choses en main, et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, comme il l'imaginait.
Manon, parce qu'évidemment, Manon, elle ne connaît pas, c'est même pas physiquement à quoi il ressemble, donc ça va passer crème au début, du moins. Autrement, il n'y aurait pas de film.
C'est ça, exactement. Donc il peut vraiment passer inaperçu puisque sa fille ne le connaît pas. Et sauf que évidemment, bah il est en total décalage avec ce monde qu'il ne connaît pas puisque lui c'est un journaliste un peu noctambule, boîte de nuit et voilà, journaliste people, et donc c'est pas du tout son monde, et il va se retrouver confronté comme ça à un monde avec des lycéens qui sait pas quoi faire quoi.
Alors moi ce que j'ai trouvé quand même très malin et surtout aussi toujours sur une corde, c'est qu'il y a de la comédie, on traite d'un sujet lourd d'actualité aujourd'hui qui est le harcèlement scolaire, mais un peu sous ton de comédie. Je pense que c'est peut-être certainement le meilleur moyen que le message passe.
C'est ça, c'était vraiment l'objectif du film au départ, c'était d'essayer de parler de quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux, mais voilà, toujours sérieusement et sans être moralisateur, mais en essayant de donner des clés pour comprendre comment on peut en arriver là et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce ton comédie dramatique comme ça, qui nous permet d'aborder un sujet sérieux et de toucher le plus grand nombre, c'est aussi l'objectif, tout en parlant de choses vraiment, oui, malheureusement, toujours tristement d'actualité. Oui.
Stéphane, les cinquantenaires qu'on est, hein. On va pas se cacher, tous les deux. On a été dans une école qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. Moi, la scène qui m'a fait énormément rire, c'est quand Arnaud débarque effectivement dans ce lycée, qu'il fait face et qu'il tutoie un des élèves et que l'autre se retourne. Mais limite, c'est limite s'il prend pas un point dans la figure en disant « tu me tutoies ». Sérieux?
Alors, c'est vrai. Alors, j'ai pas loin d'avoir 50 ans. J'ai pas encore 50 ans, mais j'ai pas loin d'avoir 50 ans, c'est vrai. Mais.
On n'en est pas loin.
Mais j'en suis pas loin, j'avoue. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. Et justement.
T'as connu la même école que moi, je suis sûr.
Voilà. Non, on a connu la même école, en effet. Et c'était aussi ça qui était amusant. C'était de voir ce personnage d'Arnaud Ducret, qui est d'une autre génération et qui se retrouve confronté à des jeunes comme ça, en total décalage. Et voilà. Et c'est de voir comment lui gère ça au mieux. Mais évidemment, à chaque fois il met les pieds dans le plat, et bon, et c'est aussi source de comédie, bien sûr.
C'est eux qui sont en décalage ou c'est nous maintenant?
Ah, bonne question. Je pense que on essaie de se comprendre, pas toujours, c'est pas toujours facile, mais on essaie quand même de se comprendre malgré le décalage, je pense.
Bon, vous allez voir que ça va amener pas mal de comédie, et puis à côté de ça, le personnage de Barbara qui joue la patronne justement d'Arnaud, qui elle en fait est amoureuse transie d'Alex, mais qui n'ose pas lui dire et qui va voir en lui le moindre petit signe pour essayer d'y sauter au cou. Mais là aussi, rien ne va se passer comme prévu non plus.
Oui, exactement. Bah nous, on a adoré tourner avec Barbara parce que l'idée c'était vraiment de lui faire jouer un rôle très comédie, et elle a beaucoup aimé ça parce que c'est vrai qu'elle avait pas eu l'occasion encore jusqu'aujourd'hui de faire ce genre de rôle très très haut en couleur et vraiment ouais, qui pousse loin les curseurs de la comédie et on trouve qu'il y a un vrai décalage comme ça avec où elle joue le rôle d'une patronne un peu le diable s'habille en Prada, enfin voilà, c'était un peu les références et ça nous a beaucoup plu. Et puis évidemment le décalage avec Arnaud, ça marchait très bien. Ils avaient déjà tourné ensemble dans une série il y a très longtemps pour Arte, et là ils se retrouvaient, ils étaient très heureux de se retrouver, donc c'était super.
Alors on verra ces deux personnages effectivement qui sont en décalage permanent. Est-ce que les planètes s'aligneront à un moment donné? Eh bien, vous le saurez en regardant effectivement ce soir Papa Malgré Lui. On va parler de la musique, mon cher Hervé. C'est vrai que quand on s'adresse avec un film avec beaucoup de jeunes, etc., il y a toute une musicalité autour qu'il faut mettre. Comment s'est passée la construction de cette bande musicale autour de ce film?
Alors effectivement, c'est un film qui est très riche parce qu'il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de personnages qui existent tous, et donc il faut avoir un peu une idée de l'illustration de tout ça. Mais ce qui m'a vraiment donner envie et toucher, c'est les personnages, le mélange justement des émotions avec ces couches différentes entre toujours la comédie en fond, mais où on raconte vraiment quelque chose de très sérieux. Donc c'est avec ces acteurs qui vraiment, tu les as cités, ils sont vraiment super parce que c'est très subtil même dans des situations un peu complexes. Donc ça s'est beaucoup fait, la musique s'est construite avec beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de avec Stéphane notamment.
Faire la musique avec les images.
Je fais les deux, c'est-à-dire qu'évidemment, je finis toujours par faire la musique sur les images, mais j'ai une réflexion sur les thèmes, la couleur. C'est vrai qu'est-ce qu'on part sur de la comédie. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a de la comédie, évidemment, mais un fond social très très émouvant par moment. Il y a de la romance aussi, mais une romance comédie, donc c'est vraiment la subtilité qu'il faut trouver. Et j'étais bien accompagné par Stéphane Drouet, avec qui on a énormément échangé. Et c'est aussi mon plaisir, c'est pas seulement de composer, c'est surtout d'essayer de rentrer dans l'univers d'un créateur, d'un réalisateur, d'un producteur, d'une productrice. Et donc ça s'est passé par les échanges, et c'est ce que j'aime particulièrement d'une manière générale dans le métier de compositeur à l'image.
Alors moi, Hervé, la question que je me pose toujours, c'est quand on est compositeur, est-ce que c'est plus facile de commencer à composer une musique quand on a effectivement des personnages qu'on peut imager ou qu'on a déjà effectivement un visage? Est-ce que ça influence effectivement, est-ce que le physique de nos personnages et des comédiens qui les incarnent peuvent influencer ta musique?
Bah ça peut effectivement, mais en général je subis un peu la chose. Quand je dis je subis, ça veut dire que des fois on me parle de la musique, enfin du film, et donc de la musique avant le tournage ou pendant le tournage, donc c'est vrai que je commence à penser, et c'est vrai qu'une fois que c'est incarné, ça peut changer les choses. C'est-à-dire que ça peut me pousser à réduire un peu, si la personne est vraiment dans la comédie, dans le jeu, dans la comédie, ça peut me faire enlever un peu de un petit degré, quoi, en moins.
Être gradé un peu.
Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, on s'adapte au personnage, au jeu, et au rythme de la réalisation. Une fois que c'est incarné, ça aide toujours, hein, effectivement, ouais, bien sûr.
Hervé, on dit souvent que quand on regarde un film, effectivement, la musique a une part très importante, c'est presque un des personnages centrales d'un film, parce qu'on dit souvent, bah, regarder un film sans sa musique, elle n'aura pas du tout la même saveur, ni même la même compréhension. La musique aide aussi à ça.
Oui, bah moi, avant d'être compositeur, j'étais spectateur et donc auditeur aussi au cinéma. Mais disons que pour moi, je fais que souligner les choses, c'est-à-dire que je pense pas inventer quelque chose en faisant.
T'es créateur d'émotions, en fait, toi.
Je dirais même surligneur, peut-être. Ouais, c'est-à-dire que je pense que tout y est, et le réalisateur ou voilà la personne avec qui j'échange me dit juste, voilà, sur cette image, c'est ça que j'ai envie d'avoir. Là, dans Papa malgré lui, il y a beaucoup de scènes où il y a vraiment un mélange de comédie et de tension, et donc c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on. On a vraiment eu ces conversations avec Stéphane sur certaines scènes. Qu'est-ce qu'on souligne? Est-ce que là, on marque le plus le harcèlement, est-ce qu'on dédramatise un peu, ça dépend du message qu'on veut faire passer, et surtout sur la, pas uniquement sur la scène, mais après il faut qu'il y ait une cohérence sur la longueur. Donc voilà, c'est le plaisir de l'échange, et puis là c'est vraiment un bonheur pour moi parce que le film est rempli de choses à illustrer, quoi. Donc c'était
chouette tout ça. Stéphane, dernière question, on va mettre un peu en avant aussi cette jeune comédienne qui interprète Manon de manière brillante.
Oui, Lara Tavella, on est hyper fiers parce qu'en plus c'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran comme ça. Elle a été juste d'une petite apparition dans une fiction il y a quelques temps, mais sinon vraiment c'est
son premier grand rôle.
Voilà, c'est vraiment son premier grand rôle et on la trouve formidable, et c'est vrai qu'elle, quand on l'avait fait le casting, on a eu un vrai coup de cœur et on s'est dit que vraiment que c'était elle le personnage parfait pour elle, c'était vraiment elle qu'on recherchait dans le rôle. J'espère que le public pensera comme nous que c'est assez réussi parce que vraiment elle est formidable.
Moi j'adore Élodie Poux aussi, hein. J'aurais rêvé d'une proviseur comme ça, ça c'est clair. Papa malgré lui, vous allez pouvoir le découvrir ce soir à 21h10 sur TF1 avec un très joli casting. On le disait, Arnaud Ducré, Barbara Cabrita avec Élodie Poux. Vous allez voir, il y a toute une pléiade de professeurs aussi autour d'Arnaud, aussi drôles les uns que les autres. Alors je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous en tout cas et de nous amener ce sujet important ce soir sur nos écrans avec effectivement cette touche de comédie qui va nous permettre de passer une bonne soirée sans nous la plomber. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci Hervé, merci Stéphane, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
On termine avec la bande-annonce Papa malgré lui ce soir 21h10 sur TF1.
Tu m'as interdit de revoir ma fille, ça fait 15 ans.
Écoute Alex, elle refuse de me parler, je sais pas quoi faire.
Il y a un problème au lycée, elle se fait emmerder.
T'imagines un peu si elle t'avait vu?
Quoi, elle connaît pas ma tronche. Anna, je te cherche partout là. Je me suis dit je peux peut-être infiltrer le lycée, comme ça après je te prends un papier sur le mécanisme du harcèlement, tu vois. Bam! Le harcèlement, les coups qu'on ne voit pas.
Mm-hmm. Dans quel établissement vous avez enseigné déjà?
Alors j'ai passé beaucoup de temps dans le lycée David Guetta. David Guettari. Écoute-moi, je veux t'aider. Il faut que ça s'arrête.
Papa malgré lui, votre comédie inédite avec Arnaud Ducré, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Merci Stéphane et merci au compositeur du film qui est avec nous il y a quelques instants. Très enrichissant en tout cas. On va continuer à parler de Papa malgré lui qui sera diffusé, on le rappelle, ce soir à 21h10 sur TF1 avec celle qui va être la star des prime time de TF1 cette semaine, puisqu'on la retrouvera également dans Erika saison 2 jeudi soir. C'est Maude Baker qui nous rejoint. Bonjour Maude.
Bonjour Alain.
Ça fait plaisir de t'avoir avec nous parce que c'est vrai que c'est un peu ta semaine. Alors t'es au théâtre tous les soirs à Paris. Tu vas être ce soir sur TF1 et tu vas jouer l'ex-mari mari d'ailleurs d'Arnaud Ducré dans ce film, dans cet unitaire. Papa malgré lui, traité sous fond de comédie mais sur un sujet très grave, le harcèlement scolaire. Et vous allez voir qu'il y a toujours cette finesse dans ce film qui est absolument extraordinaire, parce que oui, on peut parler de sujets sérieux tout en l'abordant aussi de façon des fois un peu plus légère. Et ça, c'est bien aussi, le message rentre. C'est ce que t'as eu l'impression quand t'as lu le scénario par exemple du film, toi Maude?
Ah oui, tout à fait. Bah déjà, bon, en fait, c'est un sujet terrible, hein, qu'il faut énormément parler, parce que c'est malheureusement toujours terriblement d'actualité, et on en parle de plus en plus, avec en plus les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, où les jeunes sont de plus en plus exposés, de plus en plus fragiles, sensibles, ou deviennent harcelés ou harceleurs, hein, parce que dans les deux cas, ce sont des jeunes qui vont mal, et c'est très très bien de l'aborder de cette façon, avec aussi voilà une touche d'espoir, une touche aussi de comédie, un sujet très touchant aussi par rapport à la paternité, et de comment les parents se positionnent par rapport à ça, parce que, et déjà, quand on est parent, c'est compliqué pour ses enfants, et en plus, quand on découvre à moitié en même temps qu'on est parent, et de devoir et protéger son enfant, et jouer un rôle de parent, donc tous les sujets sont abordés, et c'est aussi la comédienne qui joue ma fille est merveilleuse et extrêmement touchante, et c'est bouleversant de se rendre compte que oui, que c'est terrible, et à quel point aussi les enfants ont du mal à en parler avec leurs parents, même quand il y a un lien fort, la relation que j'ai avec ma fille dans le téléfilm, mais à quel point c'est dur aussi pour les parents de créer un dialogue. Donc c'est aussi ça qui est très important, de toujours garder ce dialogue avec nos enfants.
Et effectivement, c'est quand le dialogue commence à devenir compliqué que ton personnage va appeler à la rescousse le père biologique de ta fille dans le film, incarné par Arnaud Ducré. Elle ne sait rien, évidemment, et ta fille, et lui, pour essayer de renouer un peu le contact avec sa fille, va rien trouver de mieux que de s'infiltrer en tant que prof dans son lycée pour observer un peu ce qui s'y passe, sans te le dire en plus. Donc c'est vrai que ça va créer des quiproquos qui sont drôles.
Exactement. Bah déjà, au tout début, mon personnage se dit, bon, ma fille va mal, c'est forcément qu'elle a revu son père, c'est ça le problème. Et en fait, elle se rend compte que non, pas du tout, c'est pas ça le problème.
Ah oui, elle est complètement à côté.
Ah, complètement. Elle se dit, elle va pas bien, donc c'est forcément à cause du père qu'elle voit jamais, donc elle a dû le revoir, donc c'est pour ça qu'elle va pas bien. Et le père dit, non seulement l'a pas vu, mais si elle va mal, c'est qu'il y a autre chose. Et lui va réussir à comprendre et va découvrir, et va en plus s'infiltrer exactement dans le lycée, et va l'aider. Donc la mère, là, se dit, waouh, super, et elle va vouloir faire équipe avec le père pour essayer d'aider sa fille. Et là, elle est prête à tout, quitte à renouer avec le père pour que sa fille aille mieux, surtout quand elle se rend compte que, qu'il découvre le vrai problème et le harcèlement dont elle est victime, et comme elle ne sait pas comment faire pour aider sa fille, et que le père l'a réussi à faire quelque chose, donc c'est plutôt bien, quel que soit ce qu'il fait, ce qui est quand même assez fou de faire passer pour un prof et d'arriver à s'infiltrer dans le lycée, mais au moins...
Oui, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs quand même qu'elle ne connaît pas son père, donc du coup c'est plus facile évidemment pour lui de s'infiltrer, elle ne le reconnaît pas quoi.
Voilà, elle ne sait pas qui est son père, exactement. Et lui ne peut pas lui dire qu'il est son père non plus, donc c'est d'autant plus compliqué d'aider son enfant sans pouvoir en plus lui dire qui il est. Il s'en sort plutôt pas mal du tout.
Et va-t-elle découvrir le poteau rose? Eh bien, il faudra rester jusqu'à la fin du film pour le savoir, bien évidemment, et découvrir effectivement voilà ce qui se passe. Papa malgré lui, en tout cas, on va découvrir ce film à ne pas manquer. Et alors, moi, j'ai eu franchement une impression... Je ne vais pas dévoiler du tout la fin, bien évidemment. Mais j'ai eu une vague impression que c'était peut-être le pilote de ce qui pourrait être une collection.
Ah, ben, on en sera ravis. J'espère bien. Moi, je ne suis au courant de rien et je ne sais pas du tout. Mais si c'est le cas, ça serait formidable.
Toi, tu y repartirais sans problème?
Ah, ben, évidemment. Déjà, avec des partenaires comme ça, c'est merveilleux. Arnaud Ducré, il est formidable. Lara Kiumassi aussi. Et puis, ces sujets-là, ils sont très ravis, bien sûr. Et sans problème, je suis d'accord.
En tout cas, on va le découvrir. Ce soir, c'est Papa, malgré lui. C'est à 21h10 sur TF1. Et puis, ma chère Maude, on va te retrouver évidemment dans le rôle. Alors, pas d'Anna Delcourt, hein, ce coup-là. C'est Anna Faure.
C'est un nom que j'aime beaucoup. Hein.
C'est ça. J'ai l'impression que c'est un prénom qui te colle un peu à la peau depuis quelques années.
Exactement. Ouais.
Et tu retrouves Julie Debona pour cette toute nouvelle saison d'Erika. On peut rappeler un peu aux auditeurs, justement, pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1, qui est Erika Faure.
Et oui, qui est jouée par Julie Debona, qui est extraordinaire. Julie, que j'aime profondément. On joue deux sœurs et on a créé vraiment une relation de sœur de cœur et aussi dans la vraie vie. Et elle joue une écrivaine qui écrit des polars et qui va retourner dans sa ville natale où elle va rencontrer quelqu'un, avoir un enfant et renouer tous les liens. Voilà, ça fait avec évidemment des enquêtes, des polars, parce que son mec est flic en plus, donc elle s'infiltre un peu dans les enquêtes.
Jouée par Grégory Fitt aussi.
Tout à fait. Et jouée aussi avec toutes les relations familiales et tout ce qui se passe, la relation des sœurs, qui on va découvrir, et là notamment la saison 2 aussi beaucoup, surtout les liens avec la mère, de ce que ça fait aussi d'être mère et de
de tous les secrets de famille, de tout ce qu'on cache, de tout ce qu'on ne dit pas, et il va y avoir encore des nouveaux secrets qui vont être révélés.
Et j'ai l'impression qu'Anna va devoir venir en aide à Erika, notamment pour sa maternité, j'ai l'impression, un peu dans cette saison 2 aussi.
Voilà, et Erika va beaucoup venir en aide aussi à Anna pour beaucoup de choses. Et qui va, voilà, elle va découvrir des secrets cachés et les deux sœurs s'aident mutuellement l'une l'autre. Et puis Anna va beaucoup aider aussi Erika pour la préparation de son mariage, pour tout ce qui se passe, parce que voilà, il y a plein d'événements dans cette saison 2 où on va découvrir aussi, et Erika va sentir que sa sœur ne va pas très bien et va réussir à découvrir le gros secret qu'elle cache.
Mais comment tu fais, Maud? Parce que franchement, entre Erika saison 2, tu jouais au théâtre en même temps, t'as tourné Papa Malgré Lui, là maintenant t'es en tournée partout en France, mais comment t'as fait?
Le don d'ubiquité.
c'est dingue.
Beaucoup de trajets, parce qu'en effet je tournais à Hossegor la série Erika, les lundis, mardis, mercredis, je reprenais le train, je jouais au théâtre à Paris du mercredi au dimanche. Après Papa Malgré Lui, ça s'était tourné un petit peu en même temps, j'avais quelques dates l'été, puis il y avait Erika aussi encore un petit peu. Et là, je suis en tournée, en effet, avec Clovis Cornillac et Eric Pratt, avec la pièce de théâtre Dans les yeux de Monet de Cyril Gély.
Exactement.
Clovis Cornillac. On joue dans toute la France.
Et qui passera lundi prochain à Biarritz, à la Gare du Midi, il reste de la place, et qui passera le 10 mars à Mérignac au Pingalon aussi. Donc là, c'est déjà complet, mais ça jouera aussi le 11 mars à Avignon. Ça tourne un peu partout en France, c'est un véritable carton.
Oui, on l'a joué pendant des mois au Théâtre de la Madeleine la saison dernière, et Clovis Cornillac a été nommé d'ailleurs un meilleur acteur pour ce rôle, et il est formidable, et c'est une pièce magnifique, et on est très heureux d'avoir une belle tournée là dans toute la France pendant deux mois.
Et ben voilà, si vous voulez voir Maud Baker sur scène avec Clovis, hein, et bien lundi prochain à Biarritz, Gare du Midi, et puis le 10, hein, peut-être que vous êtes déjà chanceux et vous avez vos places pour aller au Pingalon à Mérignac voir la pièce le 10. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez toutes les dates de tournée qui se trouvent, hein, évidemment, sur tous les points de vente habituels. Ça s'appelle Dans les yeux de Monet. En attendant, on te retrouve ce soir dans Papa Malgré Lui à 21h10 sur TF1. On te retrouve jeudi à 21h10 sur TF1 pour la saison 2 d'Erika. Merci beaucoup, ma chère Maud.
Merci beaucoup, 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 cher Alain. Merci infiniment et à très, très, très bientôt.
J'espère te retrouver vite. Un petit retour dans Demain nous appartient, oui. Un jour ou pas? Pour l'instant, c'est dans les tuyaux, pas du tout pour le moment.
Eh ben, écoute, c'est pour ça que j'étais ce week-end à 7, parce que comme je jouais aussi à Béziers, à Agde, oui. Je suis passée à 7, retrouver tous les copains, voir tout le monde. Mais voilà, de 7, j'y retourne avec joie et beaucoup d'émotion. Et pour l'instant, un retour dans la série, avec mon emploi du temps, c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être, un jour, on ne sait jamais.
Parce qu'à chaque story que tu postes depuis 7, oui. Ça déclenche des hordes de rumeurs. Hein. T'as vu, hein?
Oui, je sais bien, je sais bien. C'est pour ça que je précise bien que je suis au théâtre en ce moment, que c'est parce que je suis en tournée partout dans toute la France, mais que c'est pas pour le tournage, exactement. Oui, oui, je reçois beaucoup de messages à chaque fois, exactement.
Bon, Anna Delcourt is no back pour le moment, mais c'est pas dit qu'elle revienne pas un jour, en tout cas pas pour l'instant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour toi, ma chère Maud. On te dit à bientôt. Merci à toi.
À très, très bientôt, Alain.
Qu'est-ce que vous faites?
Maman, on frappe avant d'entrer.
J'ai frappé.
Voilà. Merci beaucoup.
Non, mais Erika, fort.
Toi, tu m'expliques un jour comment tu fais pour arriver toujours avant moi.
Je sais pas, le talent.
Donc, si on résume, on a 4 meurtres.
Il y a un truc qui colle pas depuis le début. On est complètement perdu, on n'a aucun suspect.
Vous êtes en train de rater votre propre mariage. C'est du délire, là.
C'est excitant, ça, ça joue le mariage.
Tu couches avec un truc, t'écris des polars, tu fais des enquêtes. T'as pas les envies de meurtre un peu parfois?
Non, au contraire, ça m'apaise.
Erika revient pour une deuxième saison, prochainement sur TF1.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Pourquoi t'as pas d'enfant, qui sera diffusé demain soir à partir de 21h05 sur France 5 et dès demain matin 6h sur France.tv. Un film de Enora Malagré et de Chloé Garrel. Et Enora est justement avec nous pour en parler. Bonjour Enora.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Eh bien, avec un grand plaisir. J'ai été évidemment interloqué par ce sujet, parce que c'est vrai qu'on va y trouver de nombreux témoignages dans ce documentaire. Pourquoi t'as pas d'enfant? C'est la question que redoutent toutes les femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfant. C'est une question, c'est vrai, intrusive, on peut le dire, parce qu'il peut y avoir diverses raisons. Vous avez des témoignages de femmes qui se battent encore aujourd'hui au quotidien pour essayer d'en avoir, alors que d'autres font le choix délibéré de ne pas en avoir. Et la parole est donnée à toutes ces femmes, justement. C'est ça que j'ai trouvé bien dans ce film, Enora.
Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, oui, j'avais à cœur de croiser ces regards-là, parce que les injonctions, en fait, dans la société sont les mêmes. Qu'on ne puisse pas ou qu'on n'ait pas envie d'avoir des enfants, on entend les mêmes phrases. Et si on pose la question, est-ce que t'as des enfants? Bon, ça c'est tout à fait entendable, il n'y a pas de problème. Par contre, pourquoi t'as pas d'enfants? Soit ça réveille des parcours souvent jalonnés de souffrance pour celles qui n'ont pas pu en avoir, soit pour celles qui n'en veulent pas. En fait, ça ne regarde personne, donc c'était vraiment important, voilà, de croiser ces regards-là.
Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est effectivement des témoignages de personnalités comme Marianne James ou Béatrice Dalle, qui offrent un témoignage très libéré, comme on la connaît aujourd'hui, brute, nature peinture, quoi. Tout simplement.
Oui, oui, effectivement, j'avais vraiment besoin, moi, pour m'aider dans ma quête personnelle, pour me réparer avec l'idée que je n'aurais jamais d'enfant, d'aller à la rencontre de femmes puissantes, affranchies, très libres, pour vraiment m'aider au maximum. Et je trouve qu'elles sont d'ailleurs extrêmement bienveillantes à mon endroit. On sent vraiment qu'elles me prennent la main et qu'elles me conseillent, quoi, pour me rassurer et en fait me faire entendre surtout qu'une vie sans enfant, c'est une vie tout à fait valable, qui peut être tout à fait joyeuse et très remplie.
C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué quand même en 50 ans, quand on voit des images d'archives des années 70, qu'on interroge des femmes, des hommes qui disent c'est le rôle de la femme d'avoir des enfants. Il y a une historienne qui vient aussi apporter un éclairage, Muriel Salles, et une politologue, Françoise Vergès, qui viennent apporter aussi dans ce film évidemment des éclairages sur cette notion de maternité.
Oui, mais alors en fait, non, ça n'a pas tellement changé parce que c'est un peu ce qu'on montre dans le film, c'est-à-dire que ces injonctions dont on parlait, cette intrusion même étatique au plus haut niveau de l'État, puisqu'on le voit dans le documentaire, c'est depuis la nuit des temps, je dirais, les présidents de la République, par exemple, nous encouragent avec une politique nataliste, alors qu'il n'y a pas vraiment de problème de démographie en France, pardon. Mais vraiment, c'est toujours cette façon qu'ont les hommes de se mêler du corps des femmes, de se mêler du destin des femmes. Je dis les hommes parce qu'il se trouve qu'en l'occurrence, en France, pour l'instant, nous n'avons eu que des présidents de la République hommes. Et puis, les phrases qu'on entend dans le micro-trottoir, on les entend toujours, dans les dîners. Mais tiens, mais pourquoi t'as pas d'enfants? Moi, j'ai même des jeunes filles de 25 ans qui me disent qu'on leur demande déjà pour quand elles vont faire des
quand
enfants.
C'est qu'avant 6 mètres, comme il y en a qui disent, ouais.
Ouais, exactement. Et puis, c'est aussi le cas pour celles qui ont des enfants, d'ailleurs, parce que moi, j'ai des amies, elles ont eu un enfant. Et la question qu'on leur pose après, c'est à quand
le deuxième? Alors, le petit deuxième.
Voilà, mais c'est pas possible, c'est mais laissez-nous tranquille. Ouais. Donc, il y a toujours une intrusion, vraiment, le ventre des femmes, c'est ce que dit d'ailleurs Françoise Vergès, le ventre des femmes appartient à la société, appartient à tout le monde. Non. Il est temps qu'on reprenne la main là-dessus.
Et Nora, est-ce que ça a été salutaire de faire ce film pour vous?
Oui, oui, ça m'a sauvée. Moi, j'ai démarré ce film, on le voit d'ailleurs, au bout du bout de ce que je pouvais encaisser. J'étais en dépression. J'ai passé 10 ans, moi, à espérer avoir un enfant. J'ai tout tenté jusqu'à l'épuisement physique, l'épuisement psychologique. Je me suis fait du mal, je me suis punie. J'étais vraiment dans une très, très profonde déception parce que j'arrivais pas à être... À surmonter cette obsession, quoi. C'est obsessionnel. Et donc, je suis arrivée vraiment au début de ce film. J'étais épuisée. J'avais vraiment envie de rencontrer des femmes qui, comme moi, n'en avaient pas pour pouvoir m'aider. Donc, ce film, il m'a sauvé la vie. Mais vraiment. Et quand, au fur et à mesure du tournage, j'avais l'impression de déposer à chaque fois une petite valise. Et quand je suis arrivée à la fin du tournage, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très heureuse sans enfant et que mon chemin, c'était celui-ci, que mon histoire, c'était celle-là.
Et Nora, est-ce que c'était encore plus compliqué de combattre tout ça et de se battre justement pendant des années quand, qui plus est, vous êtes une femme avec un franc-parler qui a été à la tête avec Cyril Hanouna de Touche pas mon poste notamment, où on voyait tous les soirs, donc il y a aussi le fait qu'on vous voit, que les gens ont l'impression de vous connaître, donc c'est encore peut-être plus intrusif quand vous menez ce combat qu'on a peut-être aussi envie de garder pour soi.
Bah, en l'occurrence, je l'ai gardé pour moi, parce que j'en avais jamais parlé. J'ai juste parlé de ma maladie, l'endométriose, parce qu'on m'y a un peu forcé dans l'émission d'Hanouna. J'avais pas tellement envie, moi, d'en parler, mais j'ai pas eu le choix. Puis après, non, je crois qu'en fait, c'est pour tout le monde, les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on a des blessures qu'on garde un peu au travail, qu'on ne partage pas. Et puis quand on rentre chez nous et que la porte se ferme, le chagrin nous envahit. Donc, ça, je pense qu'on est tous un peu logés à la même enseigne. Alors moi, j'ai un peu plus de lumière sur moi. Mais en même temps, parfois, elle a pu aussi être un peu réparatrice, cette lumière, quand j'ai parlé d'endométriose. Et je me suis rendu compte que j'étais pas seule. J'ai peut-être eu la chance aussi que d'autres femmes n'ont pas de me sentir soutenue. Donc après, oui, bah comme tout le monde, effectivement, on a nos problèmes et effectivement, personne ne savait que il y avait des parcours PMA dans ma vie privée, que j'ai fait énormément d'arrêts naturels de grossesse, d'une grossesse extra-utérine. Mais bon, encore une fois, c'est un peu le lot de bien des femmes.
Ouais, c'est clair. En tout cas, heureusement, je dirais endométriose, on en a peut-être jamais autant parlé que maintenant, et c'est important de le mettre, voilà, aujourd'hui, vraiment en plein jour. Et vous faites partie avec Laurie ou avec évidemment Laetitia Milo, des femmes qui ont vraiment mis une grande lumière sur cette maladie qui touche une femme sur 10. C'est totalement hallucinant qu'on entende parler de cette maladie que depuis 10-20 ans.
Ouais, encore, hein, c'est plus
ouais, 5 encore.
Ans, mais effectivement, ouais, non, vous avez raison. Après, bah, c'est une maladie de femme. Effectivement, si on peut y mettre, alors c'est pas du tout contre les hommes que je dis ça, mais si ça avait été une maladie d'homme, on aurait trouvé la solution depuis longtemps. On imagine une maladie où les hommes ont mal aux testicules 20 jours par mois et ont des saignements hémorragiques, je pense qu'on aurait trouvé la solution. Mais
ouais, c'est ça qui est terrifiant.
On la taisait, c'est une maladie qui est pas très ragoûtante parce qu'elle tourne autour des règles, et puis surtout, enfin voilà. Et aujourd'hui, alors on en parle, on sait ce que c'est, et ça c'est effectivement le combat qu'on a mené toutes les droits de front. Après, on n'a toujours pas de solution, ça c'est toujours pas de sous pour la recherche, ça ne se guérit toujours pas. Donc,
est-ce qu'on peut l'aider à la recherche concrètement aujourd'hui, Enora?
Oui, bien sûr, on peut toujours donner des sous aux associations de patients puisque le gouvernement lui ne fait rien, nous avait promis des choses et nous a lâchés. Mais il y a effectivement beaucoup d'associations comme Endo France ou Info Endométriose. Vous pouvez vous tourner vers ces associations pour leur donner de l'argent et elles reversent à l'Institut Pasteur pour essayer d'aider la recherche.
Et les choses avancent un peu ou pas?
Enfin, non, pas du tout. Absolument pas.
C'est au point mort pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, c'est au point mort. On a déjà fait le boulot. Après, on a les médecins maintenant de notre côté. On diagnostique un peu mieux la maladie. Mais il n'y a pas de solution, toujours pas, parce que tant qu'on n'y aura pas de sous pour la recherche, on pourra pas trouver.
En tout cas, ça fait plaisir. Moi, j'ai eu l'impression de voir un peu une Enora Malagré un peu éteinte au début du film et de la voir se rallumer au fur et à mesure. Et ça, c'est vrai que ça a fait plaisir à voir au fur et à mesure des témoignages, comme avec Mireille Dumas, avec Marianne James, de rencontrer des femmes comme Sandrine Carine, qui aujourd'hui ont fait des choix de ne pas en avoir, et ça a dû aussi aider. Donc voilà, vraiment, je vous conseille en tout cas de découvrir ce très joli film qui sera diffusé demain soir à 21h05 sur France 5 pour qu'on en finisse. Peut-être, en tout cas, ce film, j'espère, va y participer sur la culpabilisation qu'il peut y avoir dans notre société là-dessus.
Oh là là, merci, ça me touche beaucoup. J'ai des frissons, merci.
Merci, merci beaucoup Enora. Oh, rendez-vous demain soir
à
6h demain matin sur France.tv. Vous avez toute la journée pour le découvrir si vous voulez en avant-première. Et puis après 21h05 sur France 5. Les projets, on termine Enora par ça. Est-ce qu'il y a des projets télé qui vont arriver en tant qu'animatrice ou comédienne?
Toujours au théâtre de Passy pour la soirée avait si bien commencé, tous les soirs, et puis toujours le magazine de la santé et Enquête de santé.
Très bien, avec Marina Carrère d'Encausse du coup, à ses côtés.
Non, avec Jim et Mohamed. Pour
Jim et Mohamed, c'est
maintenant.
Vrai, mais oui.
Et par contre, vous avez complètement raison avec Marina pour Enquête de santé.
Bon, merci beaucoup Enora, à très vite.
Merci, c'est trop chouette.
On écoute tout de suite la bande-annonce. Pourquoi t'as pas d'enfant, c'est demain soir, 21h05 sur France 5.
Inédit sur France Télévisions. Je m'appelle Enora, j'ai 45 ans et je n'ai pas d'enfant.
J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de parcours de PMA. C'était un des trucs les plus durs de ma vie, de dire à Brice, je veux plus qu'on essaye d'avoir des enfants.
Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable.
C'est rendu une femme d'avoir des enfants.
Toi, t'as jamais voulu avoir d'enfants.
Ah non. Pourquoi?
J'ai presque envie de répondre que j'aimerais ne jamais avoir à répondre à cette question.
J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas.
Pourquoi t'as pas d'enfants? Mardi prochain à 21h05 sur France.tv. Et sur France 5.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Pécheresse qui fait son arrivée sur Ciné Plus OCS. À cette occasion, nous avons la créatrice et réalisatrice de cette série qui est avec nous, Charlotte Sanson. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Éric Laroche, le producteur également, est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
On va être rejoint par les comédiennes dans quelques instants. Alors déjà, moi j'ai envie de savoir comment est venue l'idée de Pécheresse, de cette jeune fille placée dans un espèce de couvent par sa mère parce qu'elle est un peu au bout du rouleau, il faut le dire quand même, sa mère. Et elle va essayer de la calmer, ça va pas être forcément de tout repos toute cette histoire. Comment est venue la genèse? Qui c'est qui veut s'y coller? Charlotte?
Bah, la genèse est assez simple, c'est qu'en fait moi ma première année d'études juste après le bac, je me suis retrouvée à vivre dans un internat comme ça, donc un foyer de jeunes filles tenu par des religieuses. Sachant que moi je suis d'un background athée, j'ai pas été baptisée ni rien, donc pour moi c'était vraiment un peu le choc des cultures. Après voilà, j'ai rajouté des éléments fictionnels évidemment beaucoup plus haut en couleur hein, puisque moi j'y allais tout simplement pour être en hippocagne hein, donc rien à voir.
Oui, Cassidy est haute en couleur, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Elle est beaucoup plus punk que je ne l'étais effectivement. Après beaucoup de choses sont tirées de faits réels dans la série puisque c'est beaucoup basé sur mes souvenirs de jeunesse du coup de cette époque que j'ai ensuite remélangé avec des thématiques contemporaines notamment liées à internet quoi.
Eric, qu'est-ce qui fait qu'on y va sur un projet comme ça? Comment s'est passée la rencontre avec Charlotte et qu'est-ce qui vous a décidé en tout cas à avoir envie de traiter le sujet?
On s'est croisé sur d'autres projets qu'on n'a malheureusement pas pu voir le jour. Et puis, une fois, elle nous a fait lire le script du premier épisode. Et on a eu un coup de cœur, déjà parce qu'on adore son écriture. On a toujours plein de références communes. Un amour pour le genre, pour le teen movie et les teen dramas. L'un des trucs, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai eu et que j'ai toujours retrouvé dans les écrits de Charlotte, avec qui on a fait aussi une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa sur Netflix, sa patte et la façon de croquer et de dessiner ses personnages. C'est-à-dire que moi, dès la lecture, j'ai envie d'être avec ses filles, j'ai envie de passer du temps avec elles, ce qui quand même, à mon sens, est le critère numéro un d'une bonne série. Et surtout, je me suis assez rapidement dit que ces personnages existent. Des filles comme Cassidy, comme Malika, comme MC, il y en a plein en France et probablement dans d'autres pays en Occident. Et en fait, je trouve que la fiction ne les représente pas. Et c'est l'un des trucs qui m'a aussi motivé. Et ensuite, l'autre motivation qui fait que... Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'on a proposé à Charlotte de réaliser et qu'on était persuadé que Charlotte avait ça dans le sang et elle nous a pas donné tort, quoi.
C'est vrai qu'on n'est pas déçu, il y a une réalisation hyper dynamique. On va pitcher un peu la chose. Alors c'est vrai qu'on est très en empathie avec Cassidy quand même, parce que on éprouve même en tant que spectateur de la tristesse hein, quand sa mère l'amène. On a l'impression qu'elle l'amène presque en prison, quoi, dans un premier temps.
L'idée c'était d'être tout de suite collé à elle, parce que c'est une série chorale avec une très forte importance du groupe, mais c'est vrai qu'il y a quand même une héroïne centrale qui est donc Cassidy, interprétée par Léonie dans La Mort. Et c'est vrai que dès le départ, moi je voulais qu'on soit hyper attaché à ce personnage et qu'on entre dans le lieu avec elle, qu'on le découvre par ses yeux, etc. Oui.
Alors, elle est entourée de tout plein de comédiennes autour d'elle. C'est vrai que cette série, c'est un peu l'union fait la force quand même, j'ai l'impression, parce que il va se créer évidemment beaucoup de choses. Tout va partir de cette histoire de fibre, parce que Cassidy est accro aux réseaux sociaux, au paraître. Ça sera un peu la raison d'ailleurs pourquoi sa mère aussi l'amène à cet endroit-là pour se détoxer. Et puis, évidemment, à pas se laisser faire comme ça.
Oui, il y avait une idée un peu classique dans une série qui est le loup dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire que on la met dans cet endroit pour, en gros, sa mère pense qu'elle est lesbienne et que ce serait bien de la remettre dans le droit chemin, qu'elle est camgirl sur Internet et que un lieu comme ça, un peu strict avec des règles, va l'obliger à arrêter tout ça. Bon, ça reste un lieu où il y a que des jeunes filles. A priori, c'est pas le meilleur endroit, par exemple, pour le premier aspect du problème, quoi. Donc,
c'est sûr. Et puis, ce qui était dit en conférence hein, qu'on a suivi avant cette interview, c'est que ce genre d'endroit existe vraiment, du coup, Charlotte. Encore aujourd'hui.
Oui, ça existe encore aujourd'hui, et c'est des lieux qui sont assez prisés là en temps de crise, quoi, parce que comme les loyers sont devenus très chers et que c'est des endroits qui restent abordables, c'est même assez demandé, en fait. Et il y en a un peu dans toutes les villes universitaires. Moi, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier lieu où j'ai habité quand je suis partie de chez mes parents. Mais ça existe encore aujourd'hui. Hein.
Alors, la musique est omniprésente, hein, on le disait, on peut saluer vraiment aujourd'hui, même si on est dans une économie quand même difficile sur ce genre de projet. Souvent, la musique, des fois, un peu le parent pauvre, et ben là, pas du tout, au contraire. Elle fait partie intégrante de l'histoire.
Ah bah merci de le noter. Alors moi il se trouve que Julie Rouet, la compositrice, c'est une amie de longue date, donc je connais très bien son travail à la fois de musique à l'image, mais aussi son travail comme musicienne. Et comme on se connaît depuis une dizaine d'années, je suis allée non seulement beaucoup à ses concerts qu'elle faisait seule ou avec ses groupes de musique, mais aussi on est allé à beaucoup de concerts ensemble. Du coup, je peux dire qu'on connaît vraiment très bien l'univers musical l'une de l'autre, et donc on a été vraiment très vite parce que voilà, on se connaissait très très bien. Et ça a vraiment permis de nourrir de manière très vertueuse l'univers de la série, puisque Julie s'est prêtée à l'exercice de composer certains des morceaux avant le tournage. Donc on a pu parfois tourner en ayant déjà le bon rythme, ce qui change tout en fait. Notamment les scènes un peu clippées de générique, que ce soit celui de l'épisode 3 ou celui de l'épisode 2, tout le monde était en rythme. Donc forcément ça aide énormément après au montage. Pareil la scène où une jeune fille chante dans la chapelle, etc. Enfin toutes ces scènes là, on avait miraculeusement la musique avant, quoi. Et ça, c'est sûr que c'est assez idéal. Et pareil, en montage, on avait pas mal de musique composée par Julie qui est arrivée très tôt et ça nous a permis de monter en rythme plutôt que de courir derrière, quoi. Et ça, je pense que c'est ce qui crée cette impression que vous avez d'unité, quoi.
On va recevoir dans quelques instants deux des héroïnes, justement. Eric.
Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que effectivement, c'est la difficulté de ces projets avec une économie un peu basse à coût maîtrisé, comme on dit dans le milieu entre guillemets. Mais moi, j'ai pour principe de toujours vouloir épargner le spectateur de ça et de se dire que c'est pas parce que on a des problèmes d'argent que le spectateur doit les ressentir. Et donc, il y avait effectivement cette importance de la musique qui est quelque chose, comme Charlotte vient d'expliquer, qui est important dans sa grammaire à elle et sa collaboration avec Julie. Moi, je considère aussi que c'est une grammaire même indispensable pour ça, puisqu'en plus, on filme les gens d'une génération pour qui la musique est importante. Mais ça passe aussi par des choix qu'on a fait de préserver des endroits. Je pense notamment au souci de l'infographie, de la représentation des écrans, des live Twitch, qui encore une fois est quelque chose qui est quand même ultra présent aujourd'hui et qui est totalement absent de la fiction en France, que ce soit au cinéma ou à la télé ou même sur les plateformes. Donc il y avait tout ce souci-là, donc c'était important de travailler ça et de chérir ces endroits-là et de pas le faire n'importe comment, quoi.
Justement, Eric, en s'attaquant aux problèmes financiers, est-ce que ça a été dur de faire accepter à des diffuseurs un sujet comme celui-là? Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Est-ce qu'il y en avait plusieurs qui étaient sur le coup? Comment ça s'est passé?
Non, ça n'a pas été difficile parce qu'on a eu la chance d'avoir le script du premier épisode. Là, Charlotte avait écrit un premier épisode, un script très efficace qu'elle avait travaillé pendant de nombreuses années, puisqu'elle a, c'est aussi un script qui a beaucoup voyagé dans des aides, des commissions et tout, donc elle l'a chérie. Donc ça déjà, ça a permis une adhésion au projet. Et puis l'écriture de Charlotte fait que dès la lecture, on a envie d'être avec ses filles. Et donc en fait, on a eu un coup de cœur de l'équipe d'OCS qui a voulu nous accompagner. Donc non, ce qui a été difficile, c'est que on n'avait pas beaucoup d'argent. Ce qui explique, je le dis en toute sincérité et sans aucune critique, ce qui explique le format. Nous, on aurait adoré faire une série de 8 épisodes ou de 10 épisodes. Malheureusement, on n'en a pu en faire que 6. Mais en fait, il faut faire de nos faiblesses nos forces. On savait qu'il y avait une énergie. Les gens venaient pour le projet. Les gens ne venaient pas pour d'autres raisons que l'adhésion au projet. Donc ça, c'est le meilleur des carburants. Une équipe de jeunes comédiennes que Charlotte a castée avec la directrice de casting Catherine Charrier, qui ont porté le projet à bout de bras, des chefs de poste qui n'ont jamais compté leurs heures et qui se sont vraiment investis à fond dans le projet. Comme on était dans un récit d'unité de lieu, ça nous aidait aussi de pas avoir une multitude de décors. Donc je dis pas que ça a été que ça a été simple, puisque tous les projets sont compliqués, mais c'est un peu l'avantage de ce genre de programme en France, c'est que c'est des séries des premières fois. C'est les séries, c'est la première réalisation de Charlotte. Pour plusieurs comédiennes, c'est les premières fictions un peu professionnelles. Pour des chefs de poste, c'était la première fois que un second ou un troisième passait premier. Une équipe très, très majoritairement, voire quasi exclusivement féminine. Oui, on était là pour ce projet, on avait tous envie de le... Et tout le monde nous disait, après lecture des écrits de Charlotte, et après rencontre avec Charlotte, il disait « j'ai envie de le faire ».
Ça c'est chouette, c'est déjà bon signe quand c'est comme ça. Puis vous allez voir, il y a tout plein de sujets, il y a beaucoup de choses dans cette série. Il y a de l'émotion, il y a du drama, il y a de l'humour. Vous allez passer par pas mal d'états en tout cas en découvrant Pécheresse cette semaine sur Ciné Plus OCS. Et à la demande ensuite bien sûr. Et puis on va découvrir évidemment la bande-annonce maintenant. On va revenir juste après avec deux des comédiennes. Et puis Charlotte, Eric, on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et puis on croise les doigts, peut-être une saison 2.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Ma fille a besoin de cadre. Alors ça va lui faire beaucoup de bien d'internat comme ici. Vous savez, ici les règles sont plutôt strictes. Hein. Dans la journée, vous faites votre vie, vos études, mais le soir ici, c'est pas de cigarettes, pas d'alcool, couvre-feu à 20h. Pas d'internet non plus après 20h.
Il y a des exceptions?
Certainement pas. Ici, on a besoin de calme.
Bobby!
Meuf, il y a internet.
Ça doit être cool de savoir qui on est vraiment.
Et une salope, c'est une femme libre.
Moi, je rêve d'être une salope.
Et voilà, de retour pour notre spécial Pécheresse. Vous avez vu, hein, ça promet. Hein, je vous dis, rien qu'à la bande-annonce, on a déjà envie de dévorer cette nouvelle série. Ninon François nous a rejoint juste avant que Léonie Dahan-Lamort nous rejoigne également. Ninon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est MC, tout un programme. Et c'est un sacré rôle, hein, quand même. C'est ta première grande série.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est même ma première série en réalité. MC, donc Marie-Céline, c'est un personnage haut en couleur. C'est une jeune fille du coup issue d'une famille assez bourgeoise, assez
Aristo.
Voilà, c'est ça. Et qui est du coup dans ce foyer pour jeunes filles depuis un certain temps. Et du coup, il y a ce décalage entre le truc un peu de jeune première et en même temps ce côté très
punk de Cassidy.
C'est ça, voilà, c'est ça. De pas avoir la langue dans sa poche, de trucs un peu grotesques, de faire des gaffes et voilà. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir pu interpréter ce personnage qui a ces deux facettes-là et qui va encore plus évoluer dans les prochains épisodes.
Est-ce que Cassidy va avoir une bonne influence sur M6? C'est ce qu'on verra. Est-ce qu'elle va la dévergonder? Il y a des chances, hein. Je pense qu'il va s'en passer des choses. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet?
Tout. Très honnêtement, j'ai eu un premier casting en avril 2024 où j'ai pu découvrir que quelques scènes évidemment en première étape de casting, mais qui m'ont déjà beaucoup plu. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir faire de la comédie, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire vraiment sur les films que j'ai eu l'occasion de tourner. Donc vraiment ce truc de comédie qui est très bien écrit, et aussi de pouvoir parler de sujets aussi importants et très variés, parce qu'il y en a beaucoup sur la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, de vraiment plein de sujets qui sont traités extrêmement bien, avec une très belle balance, je trouve, entre la comédie et bah voilà, ces sujets sérieux qu'il faut enfin aussi prendre au sérieux. Donc voilà, tout m'a plu, et effectivement on a eu l'occasion de faire des répétitions en groupe, et ça a tout de suite matché en plus avec les filles, donc ça ajoute à l'envie de vouloir faire ce projet.
Alors si Cassidy, elle est arrivée contrainte et forcée, ici MC, elle, c'était plus une normalité en fait, hein, j'ai l'impression en tout cas qu'elle soit là.
C'est ça, c'est développé dans les épisodes, et donc sans spoiler, mais du coup elle a une petite histoire
On va découvrir au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça exactement. Oui, forcément c'est plus dans les critères pas d'entrée, parce que voilà, on voit plein de gens avec plein de milieux sociaux différents, mais effectivement oui, c'est plus la normalité.
C'est quoi tes projets? Est-ce que t'as d'autres choses à part Pécheresse qui vont arriver en 2026? Est-ce que t'as tourné des choses dans lesquelles tu vas être diffusé bientôt?
Actuellement, j'attends surtout la sortie de Pécheresse. Je fais également de la comédie musicale à côté. Donc j'ai l'occasion de pas mal performer sur scène en France et à l'étranger. On a des voyages prévus à La Réunion pour des spectacles pour enfants. Et on a eu l'occasion de le faire dans pas mal de pays, parce que c'est des endroits où il n'y a pas assez de culture de spectacle, et de surtout pour enfants. Donc ça, je suis très fière de faire partie de cette troupe. Voilà, puis après j'attends de voir ce que l'avenir me réserve, et je suis déjà très contente de pouvoir présenter Pécheresse.
Écoute, Pécheresse en tout cas débarque sur Ciné Plus OCS. On va accueillir Léonie Dahan Lamor dans quelques instants. On va se réécouter un petit extrait, et Léonie arrive tout de suite. Merci beaucoup Ninon.
Merci à vous.
Moi je veux dépendre de personne.
Ici on a tout le droit à une seconde chance.
Moi je vous aime trop les meufs, vous êtes mes premières copines.
Ben voilà, putain, j'ai cru que j'étais la seule personne sensée ici.
La seule pécheresse, tu veux dire.
Pécheresse saison 1, disponible uniquement avec Ciné Plus OCS.
Et on termine, et oui, chose promise, chose due, par une des héroïnes de cette série qu'incarne Cassidy, Léonie Dahan Lamor est avec nous. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que si le grand public t'a découvert dans Un si grand soleil, un rôle que t'as tenu pendant 2 ans il me semble, hein, au moins 2-3 ans.
Ouais, 3 ans, ouais, tout à fait.
Là c'est Pécheresse, et c'est tout un programme, puisque vous allez y découvrir Cassidy, qui est une jeune fille contrainte et forcée, eh bien, d'arriver dans un espèce de couvent, et qui va y aller vraiment contrainte malgré elle, hein, puisque c'est sa mère qui va l'amener. Elle en a marre, sa mère, parce qu'elle fait des camgirls, enfin elle fait un peu n'importe quoi, et elle se dit que c'est peut-être la solution justement pour la calmer, cette jeune fille. Mais on va voir que ça risque d'être plutôt le contraire qui va se passer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Cassidy déjà, du coup, Léonie?
Eh ben, Cassidy, c'est une jeune fille en pleine découverte d'elle-même, qui se pose beaucoup de questions, et qui va être confrontée à des vécus de femmes différentes, de milieux différents avec lesquels elle n'a pas l'habitude d'interagir, ce qui va la pousser à se questionner sur ce qui est important pour elle, ce qui l'est pas, ce qu'elle a envie de garder, ce qu'elle a envie de laisser à l'adolescence, et elle va pouvoir se faire de très bonnes copines.
Alors, ce que j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, c'est qu'on la sent seule dès le départ, vraiment paniquée à l'idée d'arriver dans cet endroit. Elle supplie même sa mère de ne pas la laisser là. Et malgré tout, très vite, on va voir sa sociabilité et sa faculté aussi à rentrer en contact avec les autres jeunes filles de l'endroit.
Tout à fait, je pense qu'elle arrive avec beaucoup d'a priori, qui vient avec le mot couvent, qu'on imagine donc très fermé, très austère. Et en fait, elle va se rendre compte que dans cet endroit, il y a plein de filles avec plein de vécus différents, des histoires différentes dont elle va pouvoir se nourrir. Et effectivement, elle arrive en se disant que de toute façon, elle va se barrer ou alors qu'elle va se faire virer. Et en fait, petit à petit, elle prend goût à cette vie en sororité.
Alors c'est vrai que dès le premier épisode, Cassidy va être confrontée à un problème de taille. Elle n'a pas de réseau. Et évidemment, pour la jeune fille que c'est ultra connectée, ça va être un gros problème.
Ouais, tout à fait. Étant cam girl, c'est comme ça qu'elle a des revenus, donc elle a besoin d'internet pour pouvoir travailler. Et là, elle est face à une problématique, c'est qu'il n'y a plus internet à partir de 20h dans le couvent.
Et donc elle va décider tout simplement d'essayer de ramener la fibre au couvent. Et là, on va beaucoup rire évidemment. C'est là qu'il y a beaucoup de scènes de comédie, il y a beaucoup de scènes touchantes aussi à travers le vécu de ces jeunes filles. Il y a beaucoup de sujets qui viennent aussi se percuter et qui amènent en fait vraiment beaucoup de sens à la série finalement. C'est ce que tu as ressenti aussi en lisant le scénario ?
Complètement, c'est la pluralité des vécus qui sont apportés par chacune de ces jeunes filles qui se rencontrent, qui échangent, qui se jugent pas et qui cherchent à comprendre les unes les autres. Pourquoi telle personne fonctionne comme ça, pourquoi telle d'une manière différente et qui se nourrissent aussi du vécu des autres.
Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été particulières pour toi ? Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été drôles, peut-être à tourner, une anecdote marrante ? Ou alors une scène qui t'a particulièrement un peu paniqué et qui a été difficile ?
Alors je veux pas spoiler, mais il y a des séquences très drôles dans l'épisode 6 que j'ai hâte que vous découvriez, dont je suis excessivement fière. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais sinon, les séquences d'intimité, c'est toujours quelque chose d'important. C'est pas obligé d'être important, mais en tout cas pour moi, ça l'est. Et donc, il a fallu se préparer avec une coordinatrice, mais également avec Sonia qui interprète Sidonie. Ça s'est vraiment très bien passé parce que on était très en confiance l'une avec l'autre et surtout on a été très attentive aux besoins de l'autre. Donc il y avait vraiment une sensation d'écoute et de partage et c'était vraiment un très beau moment.
Alors, il est vrai que Pécheresse, moi j'ai pas vu la totalité de la série, d'accord ? Est-ce que à la fin, on peut espérer avoir une suite ? En tout cas, s'il y a une suite, est-ce que toi t'es partante ?
Ah là là, mais plutôt deux fois qu'une. Ah oui, on a toutes très très envie de continuer à interpréter ces personnages, à les voir dans de nouvelles situations, qu'est-ce qu'elles vont vivre, qu'est-ce que le génie qu'est Charlotte Sanson va nous écrire et va nous proposer. On espère vraiment qu'il pourrait y avoir une saison 2, ouais.
Des projets en dehors, Léonie.
Une autre série qui va sortir sur Ciné Plus OCS qui s'appelle Deadline, réalisée par Erwan Marinopoulos, sur les soins palliatifs, où on suit le vécu de plusieurs personnages en sachant qu'ils en ont plus pour très longtemps. Et donc moi, j'interprète une jeune fille atteinte de leucémie, qui est aussi une petite chippie qui va faire en sorte d'obtenir ce qu'elle veut avant de partir.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour, peut-être, pour une intrigue un peu événement, un retour aussi dans un si grand soleil, pour venir voir papa ?
C'est pas prévu, non.
Pas prévu pour l'instant, mais la porte est fermée ou peut-être un jour, c'est pas quelque chose que tu refuserais si on te le proposait ?
Je ne sais pas, mais pour le moment, je suis ravie de pouvoir aussi m'émanciper de cette série et de pouvoir...
Faire des choses différentes ?
Exactement, découvrir d'autres choses, me nourrir de gens différents, de manières de travailler différentes, de formats différents. Donc voilà.
Et vous allez voir que Cassidy est très différente aussi. Et on va en découvrir toutes les facettes, en tout cas, cette semaine sur Ciné Plus OCS. Merci beaucoup, Léonie, d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Et puis, on espère une saison 2. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
C'est ta bouche, c'est tes lèvres qui bougent, et c'est tes mots dedans. C'est tes yeux, derrière c'est toi qui vois le monde, et tes oreilles qui l'entendent. Ne les laisse pas parler pour toi, c'est toi qui sais comment, pourquoi. Ton corps, tes rêves, ta vie, tes choix. Fais ce que tu veux, dans ta tête c'est l'orage, mais fais ce que tu veux. C'est toi la poste de ton jeu, fais ce que tu veux. On voit rien dans la ville, y'a plus que toi qui décide. C'est toi la poste.
une queen. Et quand dans le bus, tu t'effaces sous ton pull, rappelle-toi qu'on est mille, 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 mille nuls. Et ma sœur, t'es comme une boule de flipper. Tu peux faire tilter les règles, tu peux faire tilter les cœurs. Et si tu doutes que tu perds l'étincelle, rappelle-toi qu'on est tout, 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 tout belle.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chute on écoute la télé, votre talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné mercredi au cinéma s'appelle Alter Ego. C'est le film de Nicolas et Bruno qui sont nos invités aujourd'hui. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Ouais, salut.
Merci d'être avec nous. Ce film sort le 4 mars, après-demain. Ouais. Il est vrai que ça met en scène un Laurent Lafitte absolument au top de son art dans ce film. Et qui peut mieux que Laurent Lafitte pouvait jouer ce double rôle ?
Personne, tout simplement. Quand on a écrit le scénario tous les deux, on s'était interdit de dire à quel acteur on pensait. Parce qu'en général, on aime bien faire venir le comédien au personnage. Et à la fin de notre écriture, on s'est dit, bon allez, vas-y, dis à qui tu penses. Et on pensait tous les deux à Laurent Lafitte. Pour nous, c'était
une évidence.
Ouais, c'était d'abord, on l'adore. On le trouve incroyable, on le connaît depuis très longtemps. On avait vu son one man show à l'époque, il y a bien longtemps. Et pour nous, c'était le seul à pouvoir relever ce défi de faire croire qu'il est effectivement deux personnes différentes. Et effectivement, au bout de une minute de film, on intègre instantanément que il interprète deux rôles complètement différents.
C'est ça qui est assez magique, quoi, même dans votre mise en scène.
Oui, oui, absolument. Et puis, il a aussi un autre truc, Laurent, qu'on partage vraiment avec lui, c'est le plaisir de jouer plusieurs registres dans un même film. Notre film, il y a plein de registres. Il y a de la comédie, de dialogue, de situation. Il y a de l'absurde. Il y a même du théâtre un peu à la Molière. C'est assez riche. Et lui, il est absolument phénoménal dans sa manière de passer de l'un à l'autre, quoi.
Il est vrai que c'est un film qu'on aurait pu voir au théâtre. Il y a une façon très théâtrale par moment de le présenter.
Oui, c'est vrai, par moment, ouais. Nous, on adore mélanger les registres. C'est vraiment un truc qu'on adore.
Et vous avez bien raison, parce que franchement, on va de surprise en surprise en voyant ce film, c'est ça. J'ai apprécié, moi je l'ai vu au Festival de l'Alpe d'Huez il y a quelques mois. Je comprends pourquoi Laurent a eu le prix d'interprétation masculine. Oui. C'est dingue.
Mais oui. En fait, nous, on voulait faire une comédie drôle, avant tout. C'est ça, le point de départ, c'était ça. On voulait faire une comédie drôle, avec des situations très drôles, et on voulait faire un film d'acteur, pour un acteur. Un peu comme, nous on est hyper fan de La Gueule de l'Autre, Michel Serrault, c'est un film qu'on adore. C'est une sorte de cadeau, quoi. Un espace dans lequel il va pouvoir s'éclater dans deux personnages différents. Et ça, c'est très très chouette à faire. Et puis, il est entouré de super comédiens, en fait. Il y a des seconds rôles, mais qui... en fait, on a proposé les seconds rôles à nos comédiens préférés au monde. C'est-à-dire Blanche Gardin, Marc Fraise, Zabou Breitman,
Olga... Vous avez gâté, on va pas dire, hein. Quoi que ce soit, évidemment, pour laisser la surprise. Mais vous l'avez gâté, Zabou.
Oui, non. Ils ont une liberté, une poésie, chacun à leur manière, qui est extraordinaire. Ils ont vraiment mis leur talent, leur génie au service du dispositif pour sublimer la situation de Laurent. Il faut dire que Laurent, il joue deux personnages. Le premier, Alex, qui est confronté à un truc très très compliqué. C'est-à-dire qu'il voit s'installer à côté de chez lui, non pas son double magnifique, mais son double idéal. le mec qu'il aurait pu être s'il n'avait pas abandonné certaines choses.
Alors que lui, jusque-là, vivait une petite vie tranquille dans son pavillon mitoyen avec sa femme, incarnée par Blanche Gardin. Tout allait bien.
Il était le plus heureux du monde 5 minutes avant, et tout d'un coup, son monde se fendille. Et Laurent, il est extraordinaire dans sa manière d'incarner un désastre intérieur qu'il ne peut pas partager en plus, parce qu'il y a un second twist dedans, c'est qu'il est le seul à voir la ressemblance. Tout le monde lui dit, mais non, mais ce mec ne te ressemble absolument pas.
C'est limite, ils lui disent, t'es fou, quoi.
T'es en train de faire une fixette. Arrête avec ça. Le mec ne te ressemble pas du tout.
Il est en train de faire passer pour un parano-fini, quoi.
Oui, il a un gros nez, il a des petites lèvres. Il ne te ressemble pas du tout. Alors que nous, spectateurs, on voit que c'est lui. C'est lui en mieux. Ça, c'est complètement flippant. En fait, on assiste à une sorte de cauchemar éveillé, mais dont on rigole beaucoup. C'est très particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment un terrain de jeu pour le rire. C'est assez vertigineux, en fait.
Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de comédie dans ce film. On va écouter la bande-annonce. On va revenir juste après avec vous, les garçons Alter Ego. Ouais, ça sort mercredi au cinéma. On revient. À tout de suite.
Enfin, Nathalie, ce mec, c'est mon sosie parfait, mais avec des cheveux.
Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête, tout ça.
Putain, je suis un peu rouillé le matin.
C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête.
Allô, oui.
Qu'est-ce qu'il est chic. Tu te trouves pas?
Ce type, c'est moi, en mieux. Je fais des chouquettes, cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs. Bah ouais, évidemment.
Allez, Nicolas et Bruno sont nos invités. C'est notre spécial Alter Ego. Le film sort mercredi au cinéma. Une comédie qu'on a vue en avant-première à l'Alpe d'Huez. Et cause qu'on a ri, on a entendu à sale rire. Laurent Lafitte a obtenu le prix d'interprétation masculine. Et on comprend pourquoi quand on voit le film, je peux vous le dire. Où est venue cette idée folle, tous les deux, de faire, on va dire, cohabiter ce pauvre gars qui voit arriver son double en mieux à côté? Comment c'est arrivé, cette idée-là?
En fait, ce double en mieux, on le crée un peu tous dans nos têtes. Finalement, cette espèce de double idéal, on le crée, par exemple, sur les profils, sur un profil Instagram, sur les réseaux. On a tous une sorte de vision idéale de nous qu'on essaie de présenter, cette espèce d'obsession de la mise en scène qui gagne un peu notre société.
Une sorte de mise en scène de notre bonheur.
On a toujours l'impression que c'est meilleur.
Oui,
chez les autres.
Ouais, et qu'on est un peu le moins bien de l'autre. Sauf que là, il est le moins bien de lui-même. C'est quand même assez, assez spécial.
Alors, moi, j'aimerais qu'on mette quand même l'accent, c'est sur la doublure de Laurent. Parce que il est vrai que Laurent, eh ben, il y a beaucoup de scènes de confrontation entre Axel et Alex. Et automatiquement, il a fallu une doublure. Et il est important quand même qu'on parle de lui parce qu'il a été gommé au fur et à mesure du montage. Donc c'est important qu'on le cite.
Oui, c'était une sacrée histoire. C'était très important dans le dispositif de tournage. Quand on écrivait, on se disait, c'est génial, l'acteur. On se disait, tiens, l'acteur, il va jouer avec lui-même. Et en fait, bah non, concrètement, plus on se rapprochait du tournage, plus on se disait que, bah non, en fait, il allait jouer avec une doublure. Il allait jouer avec quelqu'un qui allait jouer son propre rôle dans les champs et les contre-champs, puisqu'en fait, on a choisi une mise en scène très simple, très organique, très mécanique, qui est basée sur le champ contre-champ. On sait, en gros, on a évité les effets spéciaux pour essayer de prouver qu'on pouvait mettre le même acteur qui joue deux personnages dans le même plan. Grosso modo, on sait le faire depuis Méliès, c'est-à-dire depuis l'invention du cinéma. En fait, on est parti sur un principe de mise en scène très très simple, du champ contre champ. Donc du coup, quand Laurent Lafitte jouait Alex, eh ben il fallait qu'il joue avec un Axel en face de lui, et puis qu'il serve d'amorce aussi pour être devant la caméra un petit peu, qu'on voit ses cheveux, son épaule. Et donc ça, c'est on a casté un jeune comédien de la même corpulence que Laurent Lafitte, qui sortait du conservatoire et qui a interprété les deux rôles toute la journée. Donc le matin, on tournait avec Laurent qui jouait Alex, et Ahmed Hamidi Chassin, qui était notre doublure, jouait Axel le matin, et ensuite l'après-midi, ils inversaient les rôles. C'est assez touchant parce que on a prévenu Ahmed dès le début. On lui a dit, on te prévient, tu vas disparaître. En fait, on va pas te voir, on te verra pas. Mais pourtant, tu fais vraiment partie du tournage.
Si, pourtant, on le voit. On y voit l'épaule, on y voit le derrière de la nuque, on le voit un peu quand même.
Pour un comédien, c'est pas très glorieux. Donc il a fallu qu'il accepte ça avec énormément de générosité. Et petit à petit, pendant le montage, on l'a vu disparaître, Ahmed. C'était assez émouvant. Et puis, un jour, on avait fini le montage, on se retrouve en mixage, et on entendait encore des petits bouts de voix d'Ahmed. Et puis, tout d'un coup, on les a effacés. Et on a appelé Ahmed, on lui a dit, ça y est, c'est terminé. T'as complètement disparu.
Fin de l'histoire.
Ouais, ouais.
Mais c'est ça qui est assez, assez magique. Mine de rien, dans ce film, il est très original, très particulier aussi dans sa manière, justement, vous le disiez, de filmer, de mettre en scène avec ce Laurent omniprésent. Parce que vous allez voir qu'il est plein de surprises, ce film. On est surpris du début à la fin. Et parce que vous allez voir qu'effectivement, ce double en mieux, il ne va pas s'arrêter qu'à son voisinage. Il va pas être que son voisin. Vous allez voir quand vous allez aller voir le film, on va pas vous dire quoi. Non. Mais en tout cas, vous allez voir, vous avez poussé. En tout cas, vous avez voulu pousser, j'ai l'impression, le curseur le plus loin possible.
Oui, parce qu'en fait, on voulait dépasser évidemment le pitch. Et donc le spectateur, très tôt, se dit, qu'est-ce qu'on va en faire de cette histoire, de cette situation? Et évidemment, le film dépasse largement l'idée de départ. Et avec des surprises, avec... mince, on peut pas trop raconter en fait. C'est ça qui est particulier avec notre film.
C'est ça qui est génial. Mais oui, parce que là, on est en train d'essayer de vous donner un peu l'eau à la bouche pour aller le voir. Alors surtout, ne ratez pas les dernières 20 minutes. Elles sont incroyables. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne vous attendez pas du tout à ce qui va se passer. Ouais. Et ça, c'est assez extraordinaire quand on va au cinéma, c'est d'être surpris à ce point-là et à ce niveau-là.
Oui, on voulait un film qui monte en flèche tout au long du film, quoi. Pour y arriver, en fait. On place le spectateur vraiment du point de vue d'Alex, de ce type qui découpe ce sosie à côté de chez lui. On voulait en fait ressentir une empathie très forte pour ce gars, se dire mais mon pauvre, mais qu'est-ce que je ferais à ta place, c'est terrible quoi. Et en même temps en rire à chaque fois, rire de cet enfer qu'il vit quoi. Donc c'est vraiment une expérience double aussi pour le spectateur.
Eh bien, vous allez voir ça en tout cas au cinéma, ça s'appelle Alter Ego, ça sort mercredi dans les salles. Dernière question les garçons, comment on se sent à 2 jours de la sortie, là où son bébé va appartenir à quelqu'un d'autre?
On est fébrile et très très excité, c'est un état d'excitation qui va dans tous les sens.
C'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois on est assez angoissé et en même temps on est hyper excité. C'est-à-dire que toute cette histoire de cinéma, passer énormément de temps tous les deux à écrire tout seul, à financer le film, à le préparer, à faire le casting, à faire les repérages, faire le tournage, le montage, la post-production, etc. C'est un énorme boulot. Et en fait, au final, l'objectif, c'est de le partager. C'est de le montrer au public. Donc c'est très émouvant pour nous. Ça y est, de lâcher le bébé. C'est vraiment un bébé. En fait, on met beaucoup de nous dans les films qu'on fait. On n'en fait pas beaucoup. On met beaucoup de temps à les faire parce qu'on travaille beaucoup. Puis on aime bien expérimenter des choses. On fait du théâtre, on fait de la photo, on fait plein de trucs. Et quand on fait un film, on y travaille énormément. Et ça, c'est un truc qu'on a partagé beaucoup avec Laurent Lafitte, avec les comédiens, avec les autres comédiens. C'est à la fois le plaisir de faire, de fabriquer, et une rigueur, une précision extrême.
Pour continuer les métaphores avec les bébés, vous allez voir que les couffins, c'est cinéma à partir de mercredi et qu'en plus, la fée Alpe-d'Huez s'est penchée sur le couffin en lui attribuant le prix d'interprétation masculine et vous verrez pourquoi mercredi en allant voir Alter Ego au cinéma. Merci Nicolas, merci Bruno d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Bienvenue à la maison.
Bravo mon amour, c'est génial.
À partir de maintenant, passe en mode bagarre.
Physiquement ?
Il y a un truc qui cloche avec ce mec. Je suis sûr qu'il cache quelque chose.
Qu'est-ce que tu fais ?
Il y a un petit souci avec moi.
Attends ta gueule !
T'es en train de dérailler complètement, hein ?
Que je me mets tout le monde dans la poche et nanani nanana.
Vraiment, ouais, la tête de con. C'est vraiment la tronche du con, du gros connard de merde.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura l'immense plaisir de recevoir Jérémy Ferrari à l'occasion de la sortie de son film Les Cadors. L'affaire Laura Stern également à l'honneur, avec Hakim Isker notamment et Valérie Bonneton et toute une partie de la mini-série qui seront avec nous. On recevra également Firmin Richard pour le grand lancement de Maison de Retraite, la série et plein d'autres surprises.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.